prend la page 6. Page 6, c'est l'introduction. C'est l'introduction que l'Admor Hazaken va faire au Tanya. La semaine dernière, dans le cours Fabringen qu'on a fait la semaine dernière, on s'est arrêté, merci, on s'est arrêté un petit peu sur la vie de l'Admor Hazaken. Et parce que je pense que pour comprendre un peu le Tanya, il faut d'abord comprendre par quoi il est passé. Ah oui. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu sa vie, enfin qu'on a compris, du moins on sait par quoi il est passé, maintenant on va s'arrêter l'introduction de ce livre. Dans cette introduction, il va expliquer pourquoi il a écrit ce livre. Donc c'est pas... Il va pas nous donner le thème du Tanya. Le thème du Tanya, je vous le donnerai après. Et Bezrat Hashem, une fois qu'on aura fini l'introduction, je vous donnerai le chemin général du Tanya.
Le but.
Le chemin, c'est-à-dire le chemin qu'on va emprunter.
On a expliqué la semaine
dernière. Comme il y a beaucoup de détails, des fois on pourra se perdre. Hazak Baruch. Mais ce qu'on va essayer de
faire. C'est avant l'heure.
Non, c'est l'heure.
Non, il est 9h25.
Hein?
32h35. Non, il est 36. Ça montre à leur retard.
Donc. Ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, dans cette lettre, Bliss. Maintenant.
Il parle que suédois, David.
Uniquement.
Bliss. On va faire l'introduction du Tanya. Dans cette introduction, page 6, l'Admor Hazaken va expliquer pourquoi il écrit ce livre. Pourquoi il écrit ce livre. Alors on y va.
On a expliqué un peu la semaine dernière.
Non, la semaine dernière, on a expliqué qu'est-ce qu'il y aura dans le livre.
On a dit parce qu'il y a beaucoup de questions posées par la Chassidim. Donc
voilà, donc maintenant il faut voir. Maintenant, l'Admor Hazaken va expliquer.
Bonsoir tout
le
monde.
C'est très intéressant. Bonsoir. C'est une introduction intéressante parce que dans cette introduction, l'Admor Hazaken va poser la question. En fait, il va donner trois questions, trois preuves pour lesquelles normalement il n'aurait pas dû écrire un livre. Ce livre. Et il va expliquer comment quand même il a décidé d'écrire ce livre. Alors c'est intéressant comme introduction parce que normalement quelqu'un dans son introduction, il remercie sa femme, ceux qui l'ont inspiré, etc., tout ce que tu veux. Et il explique pourquoi il a écrit ce livre. Lui, il va expliquer pourquoi normalement il n'aurait pas dû écrire ce livre, trois raisons, et pourquoi quand même il a décidé de l'écrire. Alors on y va. Akdamat Amelaket, introduction, Hazak.
Il n'y a pas les numéros là.
Page 6.
Ah oui. Merci.
Parce qu'avant c'était les approbations, et ce qu'on a fait la semaine dernière, Fabringen. Akdamat Amelaket, introduction du Melaket. Donc le Melaket, c'est celui qui a fait ce recueil. Donc rappelez-vous que l'Admor Hazaken, dans son humilité, appelle ce livre un livre de recueil. Vei Igeret Ashlucha, et c'est en fait cette lettre est une lettre qui est envoyée l'Ichalut Anshe Shlomenu à tous les Chassidim Ishmerem Tzuram Veichaskem, que Hashem les protège. Donc ça c'est une lettre que l'Admor Hazaken a envoyée aux Chassidim en guise d'introduction au Tanya pour leur expliquer pourquoi il écrit le Tanya. Alechem Ishimekra, donc au début de la lettre il leur dit je me tourne vers vous des hommes, c'est-à-dire des gens que je respecte, des gens qui ont bien avancé dans la Torah. Shimu Elai, écoutez-moi, Rodfet Tzedek Mevakshe Hashem. Écoutez-moi, ceux qui poursuivent la justice, ceux qui cherchent le droit chemin, et ceux qui recherchent Hachem. Veishma alechem elokim, je vous donne la bracha, que Hachem vous écoutera, les migadol ve'at katan, du plus grand au plus petit, kol anchesh le menu, dimdinatelu smuchot shela, tous les chassidim qu'on connaît de notre pays, donc là il était en Ukraine, ou smuchot shela, ainsi que tous les villages avoisinants, ish al mekomo yavo le shalom, que chacun soit accompagné de la paix dans l'endroit dans lequel il se trouve, v'chaim adaolam, et qui vivent ad vitam aeternam, netzar selav ed, amen keni eratzon, ça veut dire qu'on puisse vivre jusqu'à la venue de Mashiach. Bon, ça c'est l'introduction, ça c'est juste, vous savez, dans un courrier, avant de dire ce que tu veux dire, tu lis toujours, petite phrase d'introduction, bonjour, voilà. Ça c'était, donc pour leur dire bonjour, il dit voilà, d'accord, je souhaite le shalom à chacun de vous, et je vous souhaite la vie, d'accord, qu'on puisse aller jusqu'à Mashiach, amen keni eratzon. Maintenant, l'Admor Hazaken va aller directement au sens de cette lettre. Dans cette lettre, il va expliquer pourquoi, normalement, il n'aurait pas dû écrire le Tanya. D'accord? Donc il va expliquer pourquoi il n'aurait pas dû écrire. Avant de commencer cette lettre, il faut d'abord expliquer le concept du Nihidout. Chez les Chassidim, le concept du Nihidout, ça veut dire une entrevue privée avec le Rabbi, c'est très important. L'entrevue privée avec le Rabbi, c'est le moment dans lequel un Chassid... T'as pas joué, Marcel? Page 6. Le moment de la Nihidout, l'entrevue privée, c'est le moment dans lequel le chassid va s'unir avec le rabbi. C'est le moment dans lequel le chassid va épancher son cœur devant le rabbi. Il va raconter des choses qu'il n'aurait racontées à personne d'autre. C'est-à-dire que des choses qu'il n'aurait pas racontées ni à sa femme, ni à ses amis, ni à personne. C'est des choses que nous-mêmes, des fois, on n'est même pas conscient. Et quand on est devant un tzaddik, devant un confident, c'est là qu'on va se confier. Non, c'est pas se confier. Alors, l'Admor Hazaken, maintenant, en vérité, l'Admor Hazaken, maintenant, il va dire, normalement, j'aurais pas dû écrire ce livre. normalement, celui qui a un problème spirituel, il doit aller voir un rav. Et c'était toujours comme ça, que celui qui, parmi les chassidim qui avait un problème, qui sentait qu'il y avait un malaise, qui n'arrivait pas à servir à Kadosh Baruch Hu, il venait voir le rabbi. Et le rabbi l'aidait. Et donc, l'Admor HaZaken, à part ça, il va expliquer trois raisons pour lesquelles, normalement, on ne peut pas écrire un livre. Et des choses comme ça, ça peut se discuter qu'en tête à tête. Il va donner des raisons logiques. Mais, à la fin de la lettre, il va expliquer quand même pourquoi il a décidé d'écrire le Tanya, et pourquoi il pense qu'avec le Tanya, on peut surpasser les problèmes qu'il va citer. D'accord? Donc maintenant, il va développer trois problèmes. Iné modad, c'est connu. Qui margela befume deinche. C'est bon? Alors, zakubor. Donc, iné modad, c'est connu. Il y a des Tanya encore ici.
Pardon.
Modad, c'est connu. Qui margela befume deinche. C'est une habitude, befume deinche, dans la bouche des gens. Les gens ont l'habitude de dire. Bechol anche shlomenu, chez tous les chassidim, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on entend. Qui est na doma shmiya divrei moussar le riya ou kriya bisfarim. Première question, a priori, raison pour laquelle il ne devrait pas écrire le Tanya. Pourquoi? Il dit parce que, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas écrire un livre? Tu vas écrire dans un texte. Tu peux pas ressembler, on peut pas faire une ressemblance entre quelque chose qui est écrit dans un texte et quelque chose que tu vas parler en tête à tête avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il va donner une raison logique. Chaque Corée, les filles d'Arkov et d'Ato. Parce que le lecteur lit par rapport à son style, par rapport à sa manière de voir les choses, par rapport à sa manière de ressentir, ou les filles à Saga, toutes filles à Tirlo. Donc, un lecteur, quand je prends un livre, je le lis avec mon vécu. Je le lis avec ce que je connais déjà. Je le lis avec ce que je ressens déjà. Et j'essaye maintenant de retrouver ce que je ressens et ce que je connais dans le livre. Donc, d'emblée, c'est pas pur. Je peux me tromper, je peux mal comprendre. Encore plus. Donc, Ba'asher Usham ve'im sirlo ve'datom e'vulbalim. Si maintenant, cette personne-là, son cerveau est embrouillé, c'est-à-dire si une personne est dans l'obscurité, ou Ba'asher ha'it alachou ba'vodat Hashem, et donc qui vit malheureusement dans l'obscurité, Be'koshi yachol lir'ot ta'or kitov ha'ganus bisfarim. Donc, dit l'Admor HaZaken, imaginons une personne qui a un problème dans Avodat Hashem. Il a un problème, il n'arrive pas à servir Dieu. Son Yitzharara l'attaque trop durement, il n'arrive pas. Il va ouvrir un livre. Ce livre s'appelle le Tanya, par exemple. Il ouvre le livre. Mais il n'est pas bien. Il n'est pas bien dans sa tête. Donc, quand il va regarder le livre, il a du mal à trouver la réponse à ses questions dans ce livre. Pourquoi? Parce que, pour trouver la réponse à la question, il faut d'abord avoir un cerveau qui est sain, qui voit bien les choses. Il faut d'abord avoir un cœur qui est sain, qui est bien. Et là, à ce moment-là, quand tu ouvres un livre, alors là, automatiquement, tu attaques et tu trouves les réponses. Mais quand ton cerveau n'est pas bien, quand tu ouvres ce livre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un noir partout. Donc, ça ne te parle pas. Ça, c'est la première question que pose l'Admor HaZaken. Et donc, c'est une raison pour laquelle, normalement, il n'aurait pas dû écrire le Tanya, et que des choses comme ça, ça ne doit pas s'écrire, ça peut se discuter qu'en tête à tête. Af, qui m'attoque à or les naïm, ou marpe la nefesh. Ça ne veut pas dire que dans le livre, il n'y a pas les réponses aux questions. Mais, des fois, tu peux avoir des lumières énormes qui se cachent dans un livre, mais quand la personne est dans l'obscurité et que tu lui dis, tiens, t'as des questions, ouvre ce livre, la réponse est dedans, il dit, écoute, je suis sûr, je ne doute pas une seule seconde que dedans, il y a une lumière qui est douce et une lumière qui peut me guérir, mais moi, je suis dans l'obscurité. Et quand on est dans l'obscurité, on voit noir partout. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas quelqu'un qui va prendre la patience de te parler, de t'écouter, d'accord, et de te parler à ton niveau, de te dire les mots que tu as besoin d'entendre, même si on va te donner les meilleurs livres au monde, ça ne marchera pas. Tu vois du noir partout. Donc, première raison pour laquelle Admor HaZaken dit, a priori, normalement, on n'aurait pas dû écrire le Tanya.
Mais qu'est-ce qu'il avait pour qu'il soit le cœur noir et tout ça?
Non, parce que le but du Tanya, c'est justement de nous aider à nous battre contre le Yetzirara. Donc si tu m'aides à me battre contre le Yetzirara, ça veut dire que je passe par une phase difficile. Il y a une difficulté. D'accord? Donc dis l'Admor HaZaken. Premièrement, quelqu'un qui est dans l'obscurité, tu peux pas lui donner un livre. C'est pas un livre qu'il lui faut. Il lui faut quelqu'un qui parle avec lui. Donc on n'aurait pas dû écrire le Tanya. Première question. Deuxième question. Bar Minden, à part ça, il y a que l'introduction qui est écrite en petite comme ça, hein, vous inquiétez pas, après c'est un peu plus grand. Donc je suis au Bar Minden, on est à un peu plus grand. Alors regardez, non, mais c'est mieux de lire dans les mots, même si on comprend pas tous les mots, c'est pas grave. La ligne qui termine par Den, Bar Minden, 6 lignes avant la fin, 6 lignes depuis le début du deuxième paragraphe. 6. Ou Bar Minden. C'est bon?
C'était un petit intermède, Hanouka.
Très bien. Oui. Il y a encore un livre ici. Bon.
Rattrape-toi, Marcel. Rattrape-toi vite.
Ou Bar Minden. Deuxième question que pose l'Admor HaZaken, à part ça. Iné. Sifre Aïra, Abnoui, Malpisechel Enoshi. Quand c'est un livre, quand c'est un livre qui va inspirer la crainte de Dieu, mais que ce livre est basé sur une logique, alors il dit Bevadai enam shavin l'ochal nefesh. Là maintenant il pose une deuxième question. Première question qu'on a dit, c'est que celui qui vit dans l'obscurité ne peut pas trouver la lumière. Il lui faut une personne, pas un livre. Première question. Deuxième question. Un livre, par définition, ne peut pas convenir à tous les styles intellectuels. Chaque livre a un style intellectuel, et chaque personne a un style intellectuel qui lui plaît et d'autres styles qui ne lui plaisent pas. Et il va démontrer ça, que même la Torah accepte ça. La Torah accepte qu'il y a des styles qui nous correspondent et des styles qui ne correspondent pas. C'est comme ça. Donc, par définition, normalement, on ne peut pas écrire un livre qui correspond à tout le monde. C'est pas possible, normalement. Parce que ce qui va faire qu'une personne va grave apprécier, une autre personne ne va pas aimer. Donc, dans les mots. Tenez, dans les mots. Allez, on va se concentrer.
Marcel, ça va du tout. Tu es dans ta chambre.
Ou Bar Mindel. Iné. Sifre ha'ir'a abnuim apisechel enoshi. Les livres qui sont construits apisechel enoshi sur la logique humaine. Bevadai enam shavin lechol nefesh. Il est évident que ça ne peut pas être égal à tout le monde et qu'on ne peut pas avoir un livre pour tout le monde. Pourquoi? Ki en kol asichlim va'deot shavot. Parce que. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? On attend alors.
T'inquiète pas, Manu.
Non, mais on peut pas se concentrer comme ça.
Ça, c'est les anciens.
Tu as servi les chayim, c'est ça? Attention, il est sensible les chayim.
Il y a un point, un peu d'élixir.
T'as rien, lui.
On n'a pas été servi par là, non?
Il y en a. Je servi. Tout le monde est servi de Chaim.
Marcel, on n'a pas été servi.
Tout le monde Chaim. Pause.
Vous lui avez fait quoi
pour qu'on arrive? Marcel, il a un peu décontracté l'atmosphère.
Allez, le Chaim, Chanouka Sameach.
Chanouka Sameach. Ça y est,
allez, on y va. Donc, dit l'Admour Hazaken ici. Premièrement, on a dit, par définition, quelqu'un qui vit dans l'obscurité, quelqu'un qui est dans l'obscurité, tu ne peux pas lui recommander un livre. Il lui faut une personne avec qui il va parler, premièrement. Deuxièmement, par définition, quand tu écris un livre, le style intellectuel d'une personne ne correspond pas forcément à tout le monde. Et un livre, il peut plaire à une personne, et une autre personne, ça ne lui plaît pas, ça ne l'accroche pas. Parce que les manières de comprendre les choses et les cerveaux ne sont pas les mêmes. Ce qui va impressionner une personne, une autre personne, ça ne l'impressionnera pas. Et vice-versa. La Gemara, dans le traité Brachot, elle développe une bénédiction qu'on fait quand on voit 600 000 personnes. Quand on voit 600 000 personnes, on a une bénédiction à faire. Cette bénédiction, c'est
même dans la route,
Baruch Ata Hashem. Quand on retrouve 600 000 personnes ensemble, il y a une bracha à faire. C'est quoi? Israël. Oui. La bracha, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Chacham Harazim. Traduction: béni sois-tu, Akadosh Baruch Hu, Chacham Harazim, celui qui est capable de comprendre les secrets qu'il y a chez 600 000 personnes. Pourquoi? Parce que dit la Gemara que 600 000 personnes, ça veut dire 600 000 manières différentes de voir les choses. Et quand tu te dis que 600 000 juifs, dit la Gemara là-bas.
Rapport de 600 000 âmes.
Et quand tu te dis que il y a 600 000 personnes, 600 000 âmes, et que il y a une personne qui est capable de comprendre ces 600 000 personnes, dit la Gemara qu'a priori ça c'est impossible, un homme normal ne peut pas le faire. Personne ne peut comprendre, personne ne peut suivre 600 000 chitotes. Pourquoi il nous montre ça?
Oui,
ça, je reviendrai plus tard. Parce qu'il y a 600 000 chamotes, ça reviendra plus tard. Ce qu'il veut montrer par là, c'est quoi? C'est que la Gemara part de la base que chaque personne a un style différent. À tel point on a un style différent qu'on considère que personne ne peut suivre tout le monde. C'est impossible. Il n'y a que Akadosh Baruch qui peut suivre tout le monde. Donc, puisque chacun a un style différent, donc forcément, quand tu vas écrire un livre avec un certain style, il y a certaines personnes qui vont accrocher, d'autres qui ne vont pas accrocher.
Mais ça dépend.
Alors que quand tu parles en tête à tête, tu peux déjà plus adapter. Quand tu parles en tête à tête avec quelqu'un, là, dans ce cas-là, tu vas adapter. Si la personne est plus simplée, s'il lui faut plus d'histoire, s'il lui faut plus d'aspect intellectuel, tu vas plus adapter. Mais quand tu écris un livre, forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça, c'est la deuxième question. Comme on le voit ici de ce que la Gemara a dit, que 600 000 personnes est égal à 600 000 manières de voir les choses. Maintenant, le Ramban y ramène, Nukmo Shekata va Ramban, Zichono Livracha, Bimilchamot Sham. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y avait une fois un des Amoraïm, un des maîtres de la Gemara, qui a vu deux maîtres de la Gemara, qui a vu deux autres maîtres de la Gemara, et quand il les a vus, il leur a dit, ah, vous, vous êtes tellement grand que sur vous, j'ai envie de faire la bracha chacham arazim, que vous, vous êtes capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de 600 000 personnes. Et là-bas, la Gemara, elle raconte, surtout le Ramban, il développe, que les sages n'ont pas été d'accord avec ce qu'il a dit. Il a fait toute une polémique. Comment on peut dire qu'un chacham, il est capable de comprendre ce qu'il y a chez 600 000 personnes? En fait, ce qu'il voulait dire dans la Gemara là-bas, c'est que ce chacham-là, il était tellement impressionné par la grandeur de deux tzadikim, qu'il a dit, ces deux tzadikim, quelque part, ils sont comme Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il voulait dire. Qu'ils sont capables de comprendre ce qu'il y a dans la tête de 600 000 personnes. Donc ça fait une polémique dans la Gemara. Il y en a qui ont dit comment on peut parler comme ça, un tzadik c'est pas Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui ont dit non. Il y en a qui ont répondu, le Ramban y ramène là-bas, ils ont dit non. Ils ont dit un tzadik, il a une force qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, et un tzadik, il peut trouver ce qu'il y a dans la tête de 600 000 personnes. Mais même ceux qui disent ça, ils sont conscients que le fait de savoir ce qu'il y a dans la tête de 600 000 personnes, c'est divin. Et que normalement, un cerveau ne peut pas suivre 600 000 manières de voir les choses. C'est impossible. Non. C'est pas possible. Même une personne qui est extrêmement douée et qui a une très belle plume et tout ce que tu veux, tu ne peux pas écrire un texte qui va correspondre à 600 000 personnes différentes. C'est pas possible. Il y aura forcément des gens que ton texte, ils vont pas le supporter ou bien que ton texte ne va pas leur parler. Donc, deuxième question de l'Admor HaZaken. Il dit, on écrit un livre, c'est bien beau. Même si, imaginons que la personne ne vit pas dans l'obscurité et donc il voit pas tout noir, un livre ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, est-ce que écrire un livre, c'était la bonne décision?
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Pas du tout. Oui. D'accord. Vas-y. Non,
j'ai dit, par exemple, demain, tu as Hollande qui dit, j'annule les impôts. Ça va toucher beaucoup plus que 600 000 personnes.
Ça fait 60 millions,
là. Oui, mais t'auras pas 600 000 personnes qui sont d'accord avec lui?
Ah, c'est sûr.
Non. Quand on parle de 600 000, c'est 600 000 manières de voir les choses. 600 000 neshamot. C'est pour ça que je dis, on reviendra plus tard dessus. Donc, que moi, Shekata va Ramban Zichrono Livracha, comme le Ramban a écrit, j'accélère un peu dans l'introduction, hein, parce que on va arriver sur Totania. Bemilchamot Sham, et Pirush Asifri, Gabe Yoshua Shene Marbo, Ish Asher Ruarbo, Shiachol Lahalor Neged Ruchosh Kolechad Vechad. Et que le Ramban, là-bas, le commentaire du Ramban amène, que ceux qui défendent de dire qu'un tzaddik, peut comprendre ce qui se passe dans la tête de 600 000 personnes, ils se basent sur Yoshua, que la Gemara dit sur Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu. On dit que Ish Asher Ruarbo, c'est un homme qui avait l'esprit en lui. Et là-bas, le Ramban dit, ça veut dire quoi qu'il avait l'esprit en lui? Ça veut dire qu'il avait l'esprit en lui. Réponse de la Gemara, ça veut dire qu'il avait l'esprit en lui, ça veut dire qu'il était capable de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de chacun. Mais ça veut dire que pour être capable de le faire, il faut être un tzaddik. Il faut être un tzaddik pour être capable de comprendre ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Pour nous montrer que 600 000 neshamot, c'est 600 000 manières différentes de voir les choses. On sait bien ce qui est le proverbe qui dit que deux juifs est égal à combien d'avis?
Trois
avis, d'accord? Donc, imagine-toi 600 000 neshamot, 600 000 manières de voir les choses. C'est énorme. Personne ne peut suivre ça. Continue. Il dit, quand c'est un livre qui est écrit, on va dire un livre qui est basé sur la logique humaine. Bon. Maintenant, il y a des livres qui ne sont pas basés sur la logique humaine, mais des livres qui sont basés sur la Torah. Là, quand un livre est basé sur la Torah, c'est déjà différent. Pourquoi? Parce que la Torah correspond à tout le monde. Le texte de la Torah, tu prends le Chumash. Le Chumash, ça parle à tout le monde. Un enfant, ça lui parle. Un vieux, ça lui parle. Une personne qui est intelligente, ça lui parle. Une personne qui cherche l'histoire, ça lui parle. Donc là, l'Admor HaZaken va dire, le deuxième problème qu'on vient de citer, qui est que, a priori, quand on écrit un livre ne peut pas forcément correspondre à tous les styles. Il dit, quand c'est un livre qui est basé sur la Torah, le deuxième problème, on peut le supprimer. Pourquoi? Parce que la Torah peut correspondre à tout le monde. La Torah a une force qu'on retrouve nulle part ailleurs, que la Torah peut correspondre à tout le monde. Tu prends un livre de Torah, n'importe quelle personne peut sentir que la Torah lui parle. Chacun trouvera comment la Torah lui parle à sa manière. Néanmoins, l'Admor HaZaken doit poser une troisième question, qui va dire que même si c'est un texte de Torah, il y aura quand même un troisième problème. Et là, fil ou besifri ahir a asher yesodotam beharere kodesh, même si on va parler d'un livre qui est basé sur des montagnes de Kodesh, ça veut dire qui est basé sur la Torah. Midrashi Chazal, les Midrashim. Asher Ruach Hashem Diberbam, que pourquoi les Midrashim et la Torah a cette force de parler à tout le monde? Parce qu'en vérité, les Chachamim ne font que relayer la parole de Dieu. Et donc, de la même manière que Dieu peut parler à tout le monde, de la même manière, la Torah qui est le texte de Dieu peut parler à tout le monde. Les Chachamim ne font que relayer la parole de Dieu. Donc la Torah parle à tout le monde. Veoraita, Vekuchabri, Rokulachad. Puisqu'on sait ce que le Zohar nous dit, toutes ces notions-là, c'est des notions qu'on verra plus tard, on développera beaucoup plus longuement. La Torah et Dieu forment une seule entité. D'accord ? La Torah et Dieu, c'est une seule chose. Donc si Dieu peut parler à tout le monde, la Torah peut parler à tout le monde. Donc quand tu as un livre qui est basé sur la Torah, forcément ce livre peut parler à tout le monde. Donc le deuxième problème qu'on a cité, celui-là, on l'a plus. Parce que on avait deux problèmes. Premier problème, c'était que celui qui est dans l'obscurité, il voit noir partout. Cela, on l'a pas réglé encore.
Mais deux... La Torah et Dieu, c'est la même chose. Pourquoi la Torah et Dieu, c'est le même.
Alors, c'est ce que je dis. Ça, c'est deux notions qu'on va voir. Je vais aller encore plus loin que ça. Plus tard, on dira que Israël, la Torah et Dieu, c'est une seule chose. Mais c'est des notions compliquées. On va avoir plusieurs cours pour développer ça.
Non, mais là, déjà, la Torah et Dieu.
La Torah et Dieu. Bon, oui. La Torah et Dieu, c'est une seule chose.
Pourquoi? Parce que la Torah.
Parce qu'on peut pas. Parce que. Pourquoi nous on sépare? Parce que moi je dis il y a moi et ce que je pense. Deux choses différentes. Si?
Moi et ce que je pense, non?
Si, la preuve c'est que.
Parce que moi, c'est la même chose que ce que je pense.
Pas du tout. La preuve c'est que même si je pense pas, je suis quelqu'un. Et même si je pense, c'est pas pour autant que je pense que je suis. Enfin, on expliquera ça plus tard. Hein.
Mais alors, si la Torah et Dieu sont la même chose,
oui.
Dans la Torah, il y a plusieurs interprétations sur chaque mot,
ah,
sur chaque secte.
Ah, bonne question. Très bien. Très bien, c'est un bon point ce que vous posez. Donc il dit, c'est vrai que la Torah correspond à tout le monde. C'est vrai que la Torah correspond à tout le monde. Mais là, on va avoir un troisième problème qui est dans la direction de ce que M. Benita va nous dire. Que même si en vérité, dans l'absolu, un texte de Torah peut correspondre à tout le monde, et que chaque personne qui ouvre n'importe quel livre de Torah, eh ben, ça doit lui parler. Néanmoins, on voit bien dans la réalité que c'est pas comme ça. Qu'il y a des fois des livres de Torah que tu ouvres, ça te parle. D'autres livres de Torah que tu ouvres, ça ne te parle pas. Pourquoi ça ne me parle pas? C'est pas parce que, dans l'absolu, ça ne me parle pas. C'est parce qu'il faut mériter que ça me parle.
C'est pas accessible.
Ça veut dire, si tu vas chercher, si tu vas gratter, ça va te parler. Mais il y a des textes qui te parlent directement, sans que tu cherches. Il y a d'autres textes qui ne te parlent pas. Mais si tu vas chercher, ça va te parler. Ça, c'est applicable dans la Torah. Dans les autres textes, il y a des choses que, quoi qu'il arrive, tu peux gratter, ça ne te parlera pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon style.
On a beau gratter le texte, ouais. Si la personne qui lit ce texte n'est pas au niveau de ce texte, il peut gratter jusqu'à la fin de sa vie.
Ça, c'était la première question. Ça, c'était votre question, c'est la première question. Qui a dit que celui qui est dans l'obscurité, il voit noir partout, il n'est pas au niveau, il n'arrive pas.
Oui, non, mais vous dites que si on gratte, on arrive à comprendre.
Oui.
Et moi, je dis, c'est pas vrai, on peut pas, puisque pour véritablement comprendre, il faut être au niveau du texte.
Exactement. Donc, on revient au premier problème. Tout ça, il va répondre à ces questions-là. Dans la suite. Tout de suite, là, aujourd'hui, on va répondre à ces questions. Donc, il développe dans la suite la Gemara Zaken, il dit, et la filou, besifré, haïr, ah, je reprends, et la filou. Alors, on va prendre les mots. Donc, je suis au point, au milieu du deuxième paragraphe ici. Et la filou, besifré, haïr, ah, même dans les livres qui inspirent la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Asha, yesodotam, be'arin, kodesh. Les livres qui sont basés sur la Torah. C'est pas des livres qui sont basés sur la science, sur la logique humaine, que là, tu peux dire, ça correspond à certains styles intellectuels et pas à d'autres. Non. Même si c'est des livres qui sont basés sur la Torah, qui sont basés sur des midrashim, asher ruach hashem diberbam, que c'est des textes que, en vérité, c'est l'esprit de Dieu qui parle dans ça, ou milato aleshonam. C'est presque la parole de Dieu qui était dans la langue de Talmidei Chachamim. Comme ça, c'est écrit. Veorait avukut shabru kulachad. Comme on vient de dire, la Torah et Dieu, c'est une seule chose. En plus, vechol shishim ribo, neshamot klalut Israël ou fratehem. Toutes les 600 000 neshamot d'Israël. Vous allez me dire, mais on est beaucoup plus que 600 000 dans le peuple juif. Dans le peuple juif, on a 600 000 neshamot. De ces neshamot, il y a des sous-neshamot. Et de ces sous-neshamot, il y a des sous-sous-neshamot. Ça, on développera tout ça à Bezrat Hashem dans le chapitre 36. Donc on a un peu de temps, on a encore quelques années Bezrat Hashem. Il y a du temps.
Dans 3 ans.
Mais on développera. Il expliquera qu'il y a un calcul très précis. Il y a un calcul très précis. Et on va savoir exactement où on est. Et combien de neshamot il y a dans le monde? On a un calcul très précis. Deux secondes, s'il vous plaît.
Des neshamot juifs, alors.
Des neshamot juifs. Oui,
alors, ça veut dire que nous, on est plafonnés. On peut pas aller au-delà de ce
calcul. Pas du tout. On expliquera ça plus tard. Donc, il dit, ad nitzot, kal, shebekali, mufruté, aerer, shebe, amenu, bene, Israël. Toutes les neshamot. Les neshamot générales. Parce qu'on s'est dit que c'est une neshama générale, une neshama globale. Ainsi que les sous-neshamot et les sous-sous-neshamot jusqu'à la personne la plus simple d'Israël. La personne qui a la neshama la plus basse possible. Kulhu mitkashra'an beoraita. La Torah parle à tout le monde. Tout le monde peut s'attacher avec la Torah. Veoraita yamekasheret otam l'akadosh baruch hu. Chacun peut s'attacher avec la Torah. Et la Torah attache tout le monde à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'aucun juif peut venir et dire, moi je parle pas à Dieu au travers de la Torah. Moi il me faut un autre outil. Ça n'existe pas. N'importe quel juif au monde, pour communiquer avec Dieu, il communique au travers de la Torah et des mitzvot. Dieu lui communique au travers de la Torah, lui il communique avec Dieu au travers de la Torah. Chaque juif, la prière ce sera après, mais déjà chaque juif peut sentir qu'il a sa part dans la Torah, que la Torah lui parle. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, néanmoins il y a un problème, il dit quand même, bien qu'on a dit ça, hein, il dit que ça c'est seulement « derer klal ou utli klal » ou « arezé derer klal ou utli klal » ou « Israël ». Il dit l'admor hazaken. C'est vrai que de manière générale, la Torah parle à tout le monde. Mais ça c'est de manière générale. C'est-à-dire que bon, dans la Torah, il y aura forcément un texte qui t'intéresse. Et par exemple, voilà, n'importe quelle personne, il va ouvrir une paracha, paracha vaïgash, bon. Chaque personne, il va l'étudier et chaque personne va se sentir intéressée. Mais est-ce que ça veut dire maintenant que chaque personne du Ham Israël va réussir à trouver chaque détail de sa vie dans la Torah? Il va réussir à trouver chaque réponse à chaque question de sa vie dans la Torah? Ça dit l'admor hazaken, pas forcément. C'est pas qu'il n'y a pas la réponse. Mais pas forcément qu'on va réussir à trouver cette lumière. C'est un sroute. C'est un sroute. C'est un mérite. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas le problème qu'on avait dans la deuxième question, qu'il y a des textes qui ne correspondent pas à certaines personnes. Là, ça correspond. Mais il faut un sroute, il faut un mérite. Il y a des gens qui lisent la Torah. Bon, c'est une belle histoire, etc. C'est sympa. Mais je ne sens pas que ça répond à mes questions. Je ne sens pas que ça me parle. Je ne sens pas que ma vie change avec ça. Donc, il dit ici, av, shenitna, Torah, litaresh, biklal, ufrat, ufraté, fratout. Bien que dans l'absolu, la Torah peut être décortiquée dans le détail et dans le détail du détail. Les chol, nefesh, pratit, mi Israël, amouchreshet, ba. Que chaque personne du Ham Israël peut ressentir comment la Torah lui parle jusqu'au dernier détail de sa vie. Aré, en, kol, adam, zoché, liot, makir, mekoma, pratit, shema, Torah. C'est pas un sroute qui est donné à tout le monde de pouvoir trouver mon endroit, ma petite place qui me correspond dans la Torah. Ça veut dire quoi? On va expliquer plus tard. Hein. C'est écrit tous les matins, on dit « Veten chelkeinu betoratecha ». On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner notre part dans sa Torah. Chacun de nous a une part dans la Torah. Chacun de nous a un texte que lui seul pourra le comprendre de cette manière. Imaginez qu'on a un texte ici devant nous. Il y a 600 000 manières de le comprendre. Et chacun de nous ici a une manière de le comprendre et il n'y a que lui qui pourra le comprendre comme ça. Chacun de nous a son approche personnelle de la Torah et personne d'autre peut le comprendre comme lui. Alors, c'est unique.
Est-ce que ça sert de le partager avec vous?
Bien sûr, parce que c'est les détails. En détail, quand on rentre dans les détails, chacun peut comprendre différemment. Mais est-ce que chacun va réussir? Est-ce que chacun va réussir à comprendre comment chaque mitzvah, chaque mot de la Torah lui parle? Pas forcément. Edmond Razakhan va nous donner une preuve sur ce qu'il dit maintenant, qu'en vérité c'est très compliqué et que c'est pas forcément qu'on y arrive. Il dit, là, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à trouver des réponses sur des choses qui sont abstraites, comme se battre avec le Yetzer Hara, aimer Dieu, craindre Dieu. Donc, des choses qui sont abstraites. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est compliqué de sentir comment la Torah me parle et comment la Torah répond à mes questions, à mes problèmes. Il dit, en vérité, c'est pas que dans ça qu'on a le problème dans la Torah. C'est même dans les halachot. Même dans une halacha. Normalement, une halacha, c'est censé être clair. C'est censé être limpide. D'accord? Normalement, une halacha. Tu peux pas avoir 10 avis. Une halacha, c'est clair et limpide. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Question de Monsieur Benita, qu'est-ce qu'on voit? Que même dans la halacha, qui est censée être limpide et claire, et que normalement, c'est sans équivoque, veiné, av, beilchot, isur, veeter, même dans les halachot, de ce qui est interdit et permis, aniglot, lenulvanenu, que ça, normalement, c'est pas des choses cachées. C'est des choses qui sont dévoilées. C'est l'aspect dévoilé de la Torah. C'est des choses qui doivent être claires, explicites. Eh ben, qu'est-ce qu'on a vu? Matsanu ra'inu machloket anaim v'amoraim. On a trouvé des machloket, des maîtres de la Mishnah, des maîtres de la Gemara. C'est-à-dire que dans la Mishnah, il y a une machloket déjà. Dans la Gemara, après, il y a une machloket pour comprendre ce que les maîtres de la Mishnah voulaient dire. Et après, etc. Après, quand tu avances, des machloket entre Rashi et Tosfot. Comment comprendre? C'est-à-dire que des fois, quand tu arrives au bout du compte, tu peux avoir des centaines d'avis. T'as une machloket dans la Mishnah. Comment comprendre ce que la Torah a dit? Après, t'as une machloquette dans la Gemara. Comment comprendre ce que les maîtres ont dit? Après, t'as une machloquette entre les commentateurs de la Gemara. Comment comprendre ce que la Gemara a dit? Et donc, plus tu avances, c'est exponentiel. C'est-à-dire que ça veut dire qu'au bout du compte, tu peux arriver à des centaines de variantes, des milliers de variantes. Alors, ça, c'est sur des halachot. Alors qu'une halacha, c'est pas un sentiment. Une halacha, normalement, c'est censé être clair, limpide.
Une consigne.
Eh oui, normalement, une halacha, c'est censé être... Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même dans les halachot, on voit qu'il y a des différences. Il y a des différences qui font que min hakatsé et la katsé mamash. D'un bout à l'autre. Un il dit blanc, l'autre il dit noir. Un il dit permis, l'autre il dit interdit. C'est pas un il dit c'est un peu permis, l'autre il dit c'est un peu interdit. Non. Un il dit c'est moutard, c'est une mitzvah. L'autre il dit c'est mamash une avera. Il dit mais attends, c'est la même Torah? Il y a un problème. Question de M. Benita. Comment ça se fait? Il y a une raison. Ve'elu va'elu divrei le kimchaim. La Gemara nous dit, quand il y avait des machloquettes comme ça, par exemple, la machloquette la plus connue, c'est la machloquette qui est entre Beth Hillel et Beth Shammai. Qu'une fois, à un certain moment, le Ham Israël ne tenait plus. Et il y a une voix qui est sortie du ciel. qui ont dit comme ça, qui ont dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim, que les deux disent vrai, Bet Hillel et Bet Shammai, les deux disent vrai, va Alacha qui est Bet Hillel, mais l'Alacha est comme Bet Hillel. D'accord? Bon, après, la Gemara explique pourquoi l'Alacha est comme Bet Hillel. Je m'arrêterai pas dessus aujourd'hui. Ce qui nous fait remarquer ici, c'est que pour dire que les deux disent vrai, la Gemara a employé un terme assez particulier. Elle a dit les deux sont les paroles du Dieu vivant. Alors, c'est pas du Dieu vivant, on a dit des dieux vivants, parce que Elohim, en hébreu, c'est un pluriel. Ça veut dire quoi, des dieux vivants? Exactement. On aurait dû dire Elou va Elou divrei quel chai. Les deux sont les paroles du Dieu vivant. Mais en hébreu, on dit Elohim. Elohim, c'est les dieux. Pourquoi? Pourquoi quand la Gemara explique le concept de la machloket, elle te dit les deux sont les paroles des dieux vivants? Réponse. Il dit, c'est très simple. Il dit, Hashem, Mekor, Hachaim, Neshamot, Israël. Je vais d'abord expliquer la réponse, après on va aller lire dans les mots. La réponse est très simple. C'est clair qu'on a un seul Dieu. Normalement, on aurait dû avoir une seule approche. Mais quand Dieu, après, va envoyer son énergie dans le monde, dans la Kabbalah, on explique, et ça on développera plus longuement dans le chapitre 3, donc c'est pas dans longtemps, on expliquera que dans la Kabbalah, on explique que de manière générale, quand à Kadosh Baruch Hu, on voit son énergie, nous avons trois kavim. Trois kavim, c'est-à-dire trois pistes. On a la piste de droite, la piste de gauche et la piste du milieu. La piste de la bonté, la piste de la rigueur et la piste de l'harmonie. Trois pistes. Chacun de nous est dans une de ces trois pistes. C'est comme ça. Et dans chacune de ces trois pistes, il y a des variantes, beaucoup de variantes. C'est ce qui fait la différence, d'accord, entre chacun de nous. Maintenant, on va essayer de comprendre maintenant la machloket qu'il y a entre Beth Hillel et Beth Shammai. On sait, l'habitude, que Beth Hillel est toujours celui qui est plus permissif. Beth Shammai est toujours celui qui est plus contraignant. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Beth Shammai, un jour, un matin, il s'est levé, il a dit dorénavant je vais tout interdire, et Beth Hillel a dit dorénavant je vais tout permettre? Non. Réponse de l'Admor HaZaken, en se basant sur ce que l'Agmara dit. C'est quelque chose que Beth Hillel et Beth Shammai ne maîtrisent même pas. Ils ne maîtrisent pas. C'est une nature qu'ils ont en eux depuis leur naissance, avant même qu'ils sont nés. À la source de leur Neshamot. À la source de leur Neshamot, la Neshama de Beth Hillel vient du côté droit. Donc, bonté. Donc partout, il doit chercher la bonté, la permission. Donner. Beth Shammai, sa Neshama, elle vient du côté gauche, qui est la rigueur. Pas la sévérité, la rigueur. La rigueur dit que on doit être beaucoup plus rigoureux, ça veut dire pas, peut-être pas interdire, mais on doit chercher les détails. D'accord? Il faut que tout soit carré, tout soit bien, tout soit parfait. Ça, c'est Beth Shammai. Et donc, Beth Shammai, instinctivement, quand on lui présente un cas, sans le vouloir, tout de suite, il va être attiré par quoi? Il va être attiré par la rigueur. Il peut même pas faire le contraire. Pourquoi? Parce que la Torah demande à un chacham de décider avec son cerveau. Mais le cerveau ne décide pas qu'avec le cerveau, le cerveau décide avec le cœur. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le cœur qui te pousse aussi à ta décision du cerveau. C'est comme ça que ça se passe. Parce que qu'est-ce qu'il fait le juge? Le juge, on lui présente, quand tu as un juge, d'accord? On va lui présenter deux points de vue. Il y a les deux avocats qui vont présenter deux points de vue. Après, le juge devra décider. Comment il décide le juge? Les deux sont logiques. Il va décider selon ce que son cœur va le pousser. Donc le cœur va inspirer le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un Beth Shammai qui est venu ici pour t'interdire, il peut même pas maîtriser. C'est comme ça. Il est né comme ça. Sa Neshama le pousse à être rigoureux. Donc, pourquoi il te dit ça, l'Admor HaZaken? C'est pour te dire qu'en vérité, si déjà dans les halakhot il y a des différences, et pas seulement des différences, d'accord, des petites différences, des différences fondamentales, et c'est des différences qu'on ne peut même pas maîtriser. On peut même pas maîtriser, c'est impossible de maîtriser ça. Pourquoi? Parce que dès la conception, les chachamim sont nés différemment, et donc c'est pour ça que leurs halakhot vont être différentes. C'est comme ça. Si, déjà, c'est comme ça dans une halakha, que dans les halakhot et des grandes machloquettes, alors que la halakha qui était censée être quelque chose de clair et limpide, eh ben, dans ça, on voit des complications et tu vois blanc et noir, à plus forte raison que quand on parle de choses plus abstraites, de notions plus compliquées, plus raffinées, plus profondes, comme aimer Akadosh Baruch Hu, craindre Akadosh Baruch Hu, on parle des sentiments, que là, c'est évident qu'un sentiment, c'est beaucoup plus fin, et c'est évident que ce que moi je ressens, personne ne le ressentira comme moi. Donc, troisième question de l'Admor HaZaken, on ne peut pas écrire un livre qui correspond à tout le monde, c'est pas possible. Même si c'est un livre de Torah, mais forcément chacun a un style. C'est vrai qu'un livre de Torah peut parler à tout le monde, mais concrètement, dans la réalité, chacun a un style. Par exemple, une personne qui a un style bon, il va chercher des livres qui ont un style bon. Une personne qui a un style rigoureux, il va chercher des livres qui ont un style rigoureux. Ça ne veut pas dire que les autres livres ne lui parleront pas, parce que c'est de la Torah, et la Torah parle à tout le monde. Mais ça va être très difficile pour lui. Il n'aura pas forcément le mérite. Donc, troisième question de l'Admor HaZaken. Est-ce que c'était un choix judicieux de décider d'écrire un livre autour de notions spirituelles comme aimer Akadosh Baruch Hu, craindre Akadosh Baruch Hu, comment répondre à son Yetzirah. Donc je vais terminer dans le texte ici et je vais résumer les trois questions. On va passer aux réponses.
Une question, oui. Ce que tu as expliqué sur Bet Shammai et Bet Hillel, oui. Comment tu comprends le fait que des fois on voit des Chazrou Bet Hillel le rot que Bet Shammai?
Ça veut dire que. Tu as compris.
C'était ancré en eux. Donc on ne peut pas changer d'avis. C'est indépendant de lui.
Ça veut dire que leur Sechel après leur a montré. Que leur Sechel leur a montré que même selon la rigueur, il fallait être comme Bet Hillel.
Comme
non, tu m'as dit le contraire par exemple. Tu m'as dit Chazrou Bet Hillel. Oui, par exemple. Oui. Ça veut dire que Chazrou Bet Hillel rentre que Bet Shammai, c'est-à-dire que le Sechel de Bet Hillel leur a montré que dans ce cas-là, il faut trancher comme Bet Shammai. Que c'est un chesed de trancher comme ça. C'est pas grave ça. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise même pas. C'est une nature. C'est une nature. Hmm? D'accord.
Parce qu'ils ramènent des preuves, il y a des tout.
Oui, mais ils ramènent. Mais pour.
C'est pas juste comme ça, ils sont pas levés.
Bien sûr qu'ils ont des preuves. Bien sûr qu'ils ont des preuves. Mais qu'est-ce qui fait que un a cherché ces preuves-là et l'autre a cherché ces preuves-là, alors que les deux sont bons, les deux pistes sont bonnes. Parce que des fois, très souvent, je vais expliquer ce qu'il veut dire. Très souvent, quand on étudie la Gemara, tu vois que un il défend son point de vue, l'autre il défend son point de vue. Et quand tu arrives au résultat des courses, très souvent, les deux ont des points de vue très très lourds. C'est très logique. Et toi, tu es là, tu sais pas comme qui trancher. Tu dis, mais pourquoi un, il a préféré choisir cette direction qui est bonne, qui tient la route, et l'autre a préféré choisir cette direction? Qu'est-ce qui l'a poussé vers là, et qu'est-ce qui a poussé l'autre vers la direction de gauche? Réponse de la Gemara Zaken, il dit, a priori, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui fait qu'il y a une nature qui fait qu'il y a des chachamim qui sont inspirés pour aller vers la droite, des chachamim qui sont inspirés pour aller vers la gauche. Pour parler plus spécifiquement de Bet Hillel et Bet Shammai, une fois dans un commentaire, le rabbi expliquait que Bet Hillel, eux, ont une nature à voir le côté concret des choses. Alors que Bet Shammai ont une nature à voir plus le côté potentiel. Je vais expliquer ce que je veux dire. Il y a une marloquette très connue à propos des bougies de Hanouka. Selon Bet Hillel, on allume comme nous on allume aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le premier jour 1, deuxième jour 2, on va en augmentant. Selon Bet Shammai, on va en régressant. On commence premier jour par 8, deuxième jour 7, troisième jour 6, etc. Et donc, la question qu'on se pose, on dit mais pourquoi aller en régressant? Je veux dire, bon, la Torah a toujours appris qu'il faut aller en augmentant. Quelle est la logique de Bet Shammai? La Gemara n'explique pas. Et le rabbi, une fois, il avait expliqué sur ça en se basant sur d'autres Gemarotes. Et il a expliqué avec ça beaucoup, toute la marloquette de Bet Hillel et Bet Shammai. C'est un commentaire que le rabbi avait fait en 88, dans lequel il a repris toute la marloquette de Bet Hillel et Bet Shammai dans le chasse. Et il a montré comment ça suivait une manière générale de voir les choses. Que la manière générale de voir les choses de Bet Hillel, c'est que Bet Hillel voit le concret. Donc je reprends le miracle de Hanouka. Le miracle, c'est que ça a duré 8 jours. Mais concrètement, le premier jour, le miracle a duré combien de temps, concrètement? Un jour. On sait pas combien de temps il va durer. Donc on allume une bougie. Deuxième jour arrive. Concrètement, combien de temps le miracle a duré? Il a duré 2 jours. Mazal tov, alors on allume 2 bougies. Troisième jour arrive. Combien de temps concrètement le miracle a duré? 3 jours. On allume 3 bougies. Bet Hillel, il dit, moi, je sais pas ce qui se passera plus tard. Moi, je vois ce qui est joué maintenant. Maintenant, le miracle a duré 1 jour, 1 bougie. Demain, 2 jours, 2 bougies. Bet Shammai, il ne voit pas le côté concret des choses. Bet Shammai, il voit le côté potentiel des choses. Potentiellement, le premier jour de Hanouka, la bougie avait un potentiel de brûler combien de jours?
1 jour.
8 jours. Parce qu'elle a brûlé 8 jours. Nous, on le sait pas encore, mais lui, Bet Shammai, le sait, parce que Bet Shammai, il voit le côté potentiel des choses. Le deuxième jour, cette même bougie, potentiellement, n'a que 7 jours pour brûler. Elle va brûler que 7 jours. Donc, on allume cette bougie. Troisième jour, quatrième jour, jusqu'au dernier jour, on allume une bougie, puisque potentiellement, il lui reste 1 jour. On a du mal à comprendre l'approche de Bet Shammai. Pourquoi on a du mal à la comprendre? Parce que aujourd'hui, on réfléchit pas comme ça. On réfléchit avec ce qu'on a. Je réfléchis pas avec ce que j'aurai potentiellement. Je sais pas ce que j'aurai demain. Je sais pas ce que j'aurai dans 10 ans. D'accord, ça veut dire c'est comme si tu dis une personne quand il vient de naître, il a 80 ans parce qu'il a 80 ans à vivre. Quand il fait son anniversaire d'un an, on dit ah t'as 79 ans maintenant. Ah après t'as 110. On n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça parce que nous on réfléchit par rapport à ce qu'on a. Mais Bet Shammai, c'est une manière.
C'est une réflexion de condamnation.
Pas du tout, pas du tout. Bet Shammai, la Gemara a dit très souvent que Bet Shammai en vérité avait un regard beaucoup plus profond que Bet Hillel. Seulement pourquoi aujourd'hui en galoute on tranche?
Non, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire de condamner? Ça veut dire une façon de réfléchir sans espoir.
Non, pas du tout. Lui,
voilà. Tu dis, quand l'exemple que tu dis là, l'exemple que tu cites pour Hanouka, ou l'exemple que tu cites pour quelqu'un qui vient de naître en disant il vient de naître mais il a 80 ans, ça veut dire que la porte, elle est fermée.
Non, on va reprendre. Dans l'histoire de Hanouka, le miracle a été instauré l'année d'après. Une fois qu'on a déjà su comment le miracle s'est passé. Donc Bet Shammai te dit, le premier jour, le miracle a duré 8 jours. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bet Hillel, il regarde le côté concret des choses. Bet Shammai regarde plutôt le côté potentiel des choses. Je sais qu'on a du mal à comprendre l'approche de Bet Shammai parce qu'on réfléchit pas comme ça aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire on va quantifier les choses par rapport à ce que j'ai. pas par rapport à ce que je vais avoir.
On se projette.
D'accord ? Ça, c'est pour ça qu'on a un peu de mal à comprendre l'approche de Beit Shammai. Mais quand ma chère viendra, dit le Arizal, la halakha, sur toutes les halakhot que maintenant on tranche comme Beit Hillel, on tranchera comme Beit Shammai. Parce que quand ma chère arrivera, Dieu nous donnera cette capacité de voir le côté potentiel des choses. D'ailleurs, on raconte que Beit Shammai, souvent quand il voyait quelqu'un, c'est trop dur, parce que quand tu vois le potentiel de quelqu'un, et que tu vois qu'il ne le développe pas, automatiquement tu le descends, tu dis, mais regarde le potentiel que tu as, pourquoi tu ne développes pas? Alors que Beit Hillel, il va lui dire, Chazak, Kol HaKavod, t'as fait une mitzvah, c'est très très bien. C'est compliqué. Beit Shammai, tu dis, mais non, regarde ce qu'il aurait pu faire. Qu'est-ce que tu lui dis, Chazak? Mais aujourd'hui, on n'est pas conçu pour réfléchir comme Beit Shammai. En galoute, on ne peut pas réfléchir comme ça. Tout ça pour vous montrer quoi? Que Beit Hillel et Beit Shammai, en vérité, c'est une nature que Dieu leur a donnée. C'est une nature. Un, il a une nature de regarder le côté potentiel des choses. L'autre, il a une nature de regarder le côté concret des choses. Un, il a une nature de regarder plutôt à droite, de permettre. L'autre, il a une nature de plutôt d'interdire. Donc, c'est une nature que Dieu leur a donnée. Donc, ce qu'on va expliquer par là, si déjà dans la halakha, si déjà dans la halakha, qui est quelque chose qui normalement devrait être clair, limpide, on voit qu'il y a des machloquettes énormes et que, quelque part, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas maîtriser, à plus forte raison que dans ce qui n'est pas la halakha, dans ce qui est des choses plus abstraites, comme aimer Akadosh Baruch Hu et craindre Akadosh Baruch Hu, comme savoir qui je suis, comme savoir qui est mon âme divine, qui est mon âme animale, comment comprendre le combat que j'ai à l'intérieur. C'est des notions abstraites, c'est des notions que chacun de nous, des fois, ça prend des années pour comprendre. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, l'année prochaine, je peux comprendre le contraire sur moi-même. Que ce que je croyais, la réalité que je croyais sur moi-même il y a 10 ans, dans 10 ans, je vais croire encore le contraire. Parce que c'est des choses que on prend des années pour comprendre. C'est très abstrait. Donc, à plus forte raison que sur ça, c'est des notions qui sont tellement abstraites que normalement, tu ne peux pas écrire un livre qui correspond à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Il faudrait des dizaines d'années pour essayer de faire en sorte que chacun se retrouve dans un livre. C'est pas possible. C'est impossible. Tu peux pas, ça me parle pas. Il y a des gens à qui ça parle, il y a des gens à qui ça parle pas.
Si on fait un livre sur les histoires d'enfants, ben tout le monde peut se retrouver là-dedans.
Non, il y a des gens qui n'aiment pas les histoires d'enfants.
Non, d'accord.
Des gens, il leur faut du... Non,
mais si on le donne à lire à tout le monde le
comprendra. Oui, mais tout le monde va le comprendre. Mais je sens pas que ça me parle. Je sens pas que ça m'intéresse. Je sens pas que ça va me changer ma vie. Mais oui. Je sens pas que c'est mon livre de chevet. Je sens pas que je le vis avec ce livre. Que je me lève avec celui, que je dors avec celui. Je peux pas.
C'est pas seulement une question de compréhension.
Oui, c'est pas seulement une question de compréhension. C'est une question de sentir que ça me parle. Donc, c'est pas, normalement, c'est pas possible. Donc, dit l'Admor Hazaken, je finis dans les mots, parce que j'ai pas fini là.
Un livre doit être impersonnel.
Bien sûr.
Alors, oui, pourquoi, quand on parle de Ira.
C'est impossible. C'est impossible, exactement. C'est des choses personnelles. Si déjà dans la halakha on n'arrive pas à le faire, à plus forte raison que dans des choses comme aimer et craindre un Kadosh Baruch Hu, c'est impossible d'écrire un livre qui correspond à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a des librairies qui te vendent des milliers de livres, d'accord? Des centaines de milliers de livres, ou je sais pas combien, parce que chacun retrouve son style. T'as des livres que des gens ne supportent pas, alors qu'une autre personne qui est à côté, il adore ce livre. C'est comme ça.
Dans les horoscopes, ils donnent des trucs tellement généraux que tout le monde se retrouve. Tu vois, c'est. Moi, je sais que c'est pas bien, mais.
Non, je ne sais pas.
Vas-y, lire.
Alors, amour.
Oui, bon. Quand tu dis à quelqu'un, tu auras du mal avec ta femme aujourd'hui, bah, dès qu'il y a un problème, il dit, ah oui, c'était écrit.
Oui, c'est ça.
Surtout quand t'as rien à manger. Il arrive.
Non, mais ça, dans la Torah, on n'utilise pas. Donc, il dit, Hashem, Mekorachem, Neshamot Israël, Anech Lakot, Derer Klal, je suis à la dernière ligne de la page, Lishlosha Kavim, Yamin, Usmol, Vemtsa. De manière générale, l'énergie que Dieu envoie dans le monde, l'énergie qui nous fait vivre, l'énergie qui fait vivre la Torah, l'énergie qui nous permet de réfléchir, l'énergie qui nous permet de sentir, va être différenciée en 3 catégories. Droite, gauche, milieu. Donc, bonté, rigueur, harmonie entre les deux. On développera ça tout ça dans le chapitre 3. Shehem, Chesed ou Gvura, que c'est la bonté, la rigueur, Verhulé, etc. Donc, c'est l'harmonie. Ou Neshamot, Shechorshan, Mimida de Chesed. Les Neshamot, qui ont comme racine la Mida de Chesed, l'attribut de la bonté, Anhagatan, Gamken, Lehatot, Klape Chesed. Naturellement, ils seront poussés à pencher du côté de la bonté. À permettre, comme Beit Hillel, les Hakel, permettre, rouler, etc., Kanoda, comme c'est connu. Si, déjà, c'est comme ça dans les halakhot, c'est pas conditionné. Non, c'est pas conditionné. C'est que dans le cadre de la nature qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, je vais utiliser mon cerveau pour développer. Mais ça va dépendre du cerveau que Dieu m'a donné. Ça va dépendre de ma manière de voir les choses. Ça va dépendre de mon style. Ça dépend de beaucoup. Et ça, je maîtrise pas, ça. Vechocheken, vekalvachomer, à plus forte raison. Behanistarot, Hashem Elokeinu, quand on parle des choses qui sont cachées. Comme on a dit, qui sont personnels. Des inun, trilou, chimoud et bemochavaliba. Qui sont la crainte et l'amour de Dieu. Qui se trouvent dans le cerveau et dans le cœur d'une personne. C'est très profond. C'est des choses qui sont très profondes. Des chol chad vechad, les fum shiura dile, que comme dit le Zohar, chacun va aimer et craindre Dieu à sa façon. Les fum mad et mesher belibé, selon ce que son cœur va le pousser. Comme c'est écrit dans le Zohar sur le pasouk, on dit, dans le Eshet Chayil, qu'on lit le vendredi soir, c'est écrit là-bas, Noda Bashéarim Barala, que son mari est connu dans les portes. Et le Zohar explique que ça veut dire que son mari est connu dans les portes. Il dit, c'est qui le mari? Le mari, c'est Kadosh Baroukou. La femme, c'est qui? C'est nous. C'est Knesset Israël. Et ça veut dire que son mari est connu dans les portes. C'est quoi la porte? La porte, ça veut dire la porte en hébreu, on dit Sha'ar. Et Sha'ar en hébreu, ça peut se dire également Shi'ur. Shi'ur, c'est quoi? C'est la quantité. Noda Bashi'urim Barala. Ça veut dire que Dieu va s'adresser à chacun selon sa quantité, selon son style, selon sa nature. Ça veut dire que personne ne peut dire « Dieu ne me parle pas à moi ». Noda Basharim Bala, ça veut dire « Dieu va parler à chacun selon son style, selon la manière comment il va communiquer avec lui ». Donc, avec ces trois questions-là qu'on a priori, question de la Admor HaZaken, pourquoi on a écrit ce livre? Donc je répète, trois questions rapidement. Première question, tu écris un livre, c'est bien beau, mais celui qui est dans l'obscurité, c'est pas un livre qu'il lui faut, c'est une personne qui lui parle. Première question. Deuxième question, si ton livre est basé sur la logique, forcément, il y a un style intellectuel. Le style intellectuel ne peut pas, un style intellectuel ne peut pas correspondre à tout le monde. Forcément, il y aura des gens qui vont adorer, il y aura des gens qui vont détester. Donc, tu peux pas écrire un livre qui correspond à tout le monde. La deuxième question, on la supprime, puisqu'on dit que le deuxième problème est seulement quand c'est un livre qui n'est pas un livre de Torah. Mais quand c'est un livre qui est un livre de Torah, comme la Torah et Dieu forment une seule chose, donc la Torah peut correspondre à tout le monde. Oui, peut. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle va correspondre à tout le monde? Pas forcément. Parce que, il faut un grand sroute pour ça. Si déjà on voit que dans les halakhot, on voit qu'il y a une complexité énorme, et que concrètement, dans le résultat des courses, personne pense à la même chose. Donc ça veut dire qu'on peut, personne pense, même dans les halakhot, à plus forte raison, que quand c'est quelque chose qui n'est pas des halakhot, qui est beaucoup plus abstrait, comme aimer et craindre un Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison, qu'on peut pas écrire un livre qui correspond à tout le monde. Alors dans ce cas-là, pourquoi avoir écrit le Tania? D'accord? Ça aurait été plus simple. Mais là, l'Admor HaZaken va expliquer pourquoi il devait faire un livre qui correspond à tout le monde. Dit, parce que le livre, en vérité, vient ici pour remplacer la Yechidut, pour remplacer l'entrevue privée qu'il avait avec les Chassidim. Il va expliquer tout de suite pourquoi il a décidé d'écrire ce livre. Parce que techniquement, il ne pouvait plus accueillir tous les Chassidim. C'était plus possible. Mais il est conscient qu'il y a un problème. Que quand quelqu'un a un problème, tu ne peux pas lui dire « ouvre le livre ». Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est quand quelqu'un a un problème, tu vas voir le docteur, dis, ah, va ouvrir le livre, telle page, il y a la réponse à ta question. Ah, mais moi, ce n'est pas un livre que je veux parler avec quelqu'un. Ça ne marche pas. Alors, voilà la réponse.
C'est peut-être que par l'intermédiaire du livre, il se posait moins de questions aussi. Il y avait moins de questions à poser.
Alors, ça, c'est, tu as raison, que ça, c'est, on va, si on part de l'hypothèse que la personne n'est pas dans l'obscurité, il nous reste quand même la troisième question. C'est que, forcément, le style intellectuel correspond à un style de personne, et même si on a dit que comme c'est un livre de Torah, tout le monde peut s'y retrouver, mais on a dit que pas tout le monde arrive à s'y retrouver.
Oui, mais celui qui s'y retrouvait, ils avaient...
Celui qui s'y retrouve, Mazal Tov, mais celui qui s'y retrouve pas... Comment tu vas faire?
Il allait le voir, il avait moins de demandes.
Donc là, l'Admor HaZaken va expliquer pourquoi quand même il a décidé d'écrire ce livre-là. Ah, seulement. Et là, vous allez voir, c'est très puissant ce qu'il va dire ici. Donc je suis à la page d'Alet, le paragraphe qui commence par Ah. Ah, cependant, dit l'Admor HaZaken, voilà pourquoi j'ai quand même décidé d'écrire ce livre et je pense que ce livre va être donc un remplacement à la Yechidut, à l'entrevue privée qu'il avait avec Hassidim. Beyodai ou Makirai Kamina. Je parle ici à des gens que je connais. Des gens que je connais profondément. Emkol echad vechad me'anche shlomenu. Je parle ici de chacun des chassidim. Shibim dinatenu v'samuchot shela. Chacun des chassidim qui sont dans notre pays et dans le pays qui est à côté. Et chez les chassidim, il y a une tradition qui dit, que l'Admor HaZaken, quand il a écrit ça, il a pensé à tous ceux qui allaient écrire le Tania. Tous ceux, pardon, qui allaient lire le Tania, comme nous aujourd'hui. Parce que nous, on n'a pas connu l'Admor HaZaken. Il ne nous a pas connus, a priori. Il y a une tradition chez les Chassidim qui dit que l'Admor HaZaken, quand il a écrit le Tania, il a pensé à toutes les Neshamot, c'est un tzaddik. Il a pensé à toutes les Neshamot qui, un jour, allaient goûter à la lumière du Tania. Donc, dit l'Admor HaZaken. Ar, beyod, ah, yumakirai. C'est comme ça, c'est une expression. Anche shlomenu, ça veut dire, c'est pour dire les gens de notre paix. C'est une expression en talmudique. Pour dire les gens, ça veut dire les gens qu'on aime bien. Donc, mais anche shlomenu, shibim dinatenu, smuchot shela. Asher aya adibur shel chiba matsui benenu. Il dit l'Admor HaZaken, maintenant, je connais bien les chassidim. Ça fait déjà plusieurs, comme on a raconté la semaine dernière, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies qu'on a eu l'occasion de discuter. Et que ces chassidim-là, c'est des gens d'abord que j'aime bien et qui m'aiment bien. Dibur shel chiba. Il y avait une relation et des paroles d'amour entre nous. Vegilu lefanai kol ta'alumot liba umocham babadat Hashem. Au fil des générations, ces chassidim-là, m'ont dévoilé devant moi tous les trésors de leur cœur, tout ce qu'il y avait de caché dans leur cœur, va vous attacher dans le service de Dieu. C'est-à-dire des choses qu'ils disaient même pas ni à leurs femmes, ni à leurs amis. Ils m'ont tout raconté. Et donc, dit l'Admor HaZaken, c'est-à-dire, je viens pas de nulle part. Je sais quels sont les problèmes des chassidim, avec le temps. Et je sais quelles sont les questions qui sont posées. Alehem Titov Milati, c'est à eux que je m'adresse. Ou le Shoniet Sofer, et donc c'est à eux que je prends, c'est pour eux que je prends ma plume. Bekun Tresim Elou dans ses recueils. Puisque le Tania au début c'était pas un livre, c'était des recueils. C'était des fascicules. Anikraim Beshem Likuta Amarim, ces fascicules qui sont appelés recueils de paroles. Melukati Mipis Farim ou Mipis Sofrim, des paroles qui ont été recueilli Mipis Farim de différents livres. Donc on avait expliqué la semaine dernière que les livres, c'est principalement les livres du Maharal de Prague, du Shtelu Khotabrit, ainsi que du Rambam. Ou Mipis Sofrim, c'est le livre du Tania va être basé également sur Mipis Sofrim, c'est-à-dire sur des scribes, sur des Talmid Chachamim. Il s'est basé principalement sur ses maîtres, donc c'est le Baal Shem Tov, le Maggid de Meserich, qui n'avaient pas à ce jour écrit leur texte, n'avaient pas écrit leur livre, après leurs élèves ont écrit leur texte. Nishmatam Eden, que leur âme repose en paix, Amfursamim Atselenu, qu'on connaît bien ici, qui parle le Chassidim. Uksat Mehem, et un peu des enseignements que je vais vous dire ici, dans le Tania, Nirmazim Lechachimin, peuvent être retrouvés, pour ceux qui savent le chercher, Beigrot Akodesh, Merabotenu Shebeeretz Akodesh, dans les lettres de nos maîtres qui sont en Eretz Akodesh, donc là, il parle des lettres de nos maîtres qui sont en Eretz Akodesh, chez Rabim Nachemanel de Horodok, dont on a parlé la semaine dernière, qui est parti en Eretz Israël, qui était le maître aussi de l'Admor HaZaken. Tibane, Betichonan, Mimirav Yamenu Amen, puisqu'on parle d'Atter d'Israël, alors on dit qu'elle sera reconstruite très rapidement, Mimirav Yamenu. Uksatam, Shamati, Mipihem, Akadosh, Biotam, Poimanu. Et donc une partie de ça, une partie vous les retrouverez dans les lettres de ces Chachamim qui sont qui habitent maintenant en Israël, et une partie j'ai entendu quand ils étaient ici. Donc là, l'Admor HaZaken, en toute humilité, il dit moi je n'invente rien, je fais que reprendre des textes qui sont déjà écrits, Rambam, Shtelu Khotabrit, d'accord, Maharal de Prague, Baal Shem Tov, Maggid de Meserich, Rabbi Nachman de Horodok, c'est même des lettres qu'ils ont écrites, et donc des choses qu'on a entendues quand ils étaient ici. Maintenant qu'est-ce qu'on va voir dans le Tania? Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Vechulam, tout ça, toutes ces paroles qu'on va dire dans le Tania. En tshuvot al she'elot rabot. C'est des réponses sur beaucoup de questions, asher shoalim be'etza. Sur les questions que posent en général kol anshe shlomenu dimdinatenu tamid. C'est-à-dire que l'Admor HaZaken a attendu plusieurs décennies pour voir quelles sont les questions que les gens posent. Il a vu passer des milliers de personnes. Des personnes qui ont déversé leur cœur devant lui. Et quand il a vu tous ces gens qui ont posé la question, donc il a compris quelles sont les questions qui sont posées en général par les hommes. D'accord, plus ou moins. Et donc il dit ici, kol echad lefi arko, chacun à son niveau, lachit etzod ben Hashem bavodat Hashem, pour demander des conseils. Parce que vous savez que l'Admor HaZaken a accueilli vraiment toutes sortes de personnes. On dit que des fois, il a accueilli, comme on a dit la semaine dernière, des grands talmides chachamim. Que pour être dans ce groupe de talmides chachamim, il fallait connaître, comme on a dit la semaine dernière, par tout le Shas, tout le Zohar, etc., tout la liste de textes, on a dit par cœur. D'un autre côté, il y avait des Mahamarim, il y avait des textes chassidiques, que l'Admor HaZaken faisait uniquement pour les gens simples. C'est-à-dire qu'il demandait à tout celui qui n'était pas simple de sortir dehors.
C'est quoi les gens simples?
Alors, les gens simples, c'était des gens illettrés. Ouais. Et d'ailleurs, on raconte que des fois, il y avait des chassidim qui se cachaient pour essayer d'écouter ce que disait l'Admor HaZaken. Et à chaque fois, l'Admor HaZaken les chauffait, bien sûr. Et il leur disait... dehors. Pourquoi? Parce que l'Admor HaZaken, ces gens simples, c'était des gens qui étaient tous les jours dehors. Et que bon, les avérotes auxquelles ils étaient confrontés, c'est pas les mêmes avérotes qui étaient confrontés les gens qui sont devant les lits toute la journée. Donc il a dit, on parle pas de la même manière aux deux personnes. Tu comprends, une personne qui est toute la journée et que des fois l'avérote auxquelles elle est confrontée, je sais pas, c'est peut-être l'avérote avec des femmes, l'avérote avec des choses comme ça. Alors d'un autre côté, une personne qui est toute la journée avec des lits, il comprend même pas ces choses-là. Il comprend pas comment on peut arriver à des choses comme ça. Et donc l'Admor HaZaken a accueilli toutes ces sortes de personnes. Il a parlé à toutes ces sortes de personnes. Ces gens-là se sont, comment on appelle ça, ils sont confiés à lui. Donc dit l'Admor HaZaken ici. Liot, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre? Liot, qui en azman grama od, le hashiv le chol echad echad al shelato bifratus. Il dit, Admor HaZaken, j'ai plus le temps comme avant pour répondre à chacun à sa question, bifratut en détail. Quelqu'un qui vient te poser une question. Bon, il y a si tu lui donnes une bracha, bracha vatzlacha, c'est une chose. Mais si tu veux prendre le temps pour lui répondre à sa question, le bonhomme a besoin de parler. Donc c'est pas en une minute que tu vas solutionner son problème. Il a besoin de parler, il faut qu'il parle. Donc ça va durer longtemps. Il faut plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures pour comprendre ce qu'il a dans le cœur. En plus, Vega Mashikha Metsuya. Les gens oublient. C'est-à-dire, des fois, une personne, il vient te voir, tu passes une heure avec lui, l'année d'après, il revient, il te repose la même question. Et entre-temps, les chassidim, ça augmente, il y a des milliers. Tu peux plus après. À un moment, tu peux plus. On revient te poser les mêmes questions, tu peux plus. Alken, c'est pour ça, donc techniquement, l'Admor HaZaken ne peut pas. Il dit, je ne peux plus accueillir tout le monde dans les rédoutes. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a vu le même, on a vu le même processus chez notre rabbi. On a vu comme ça que le rabbi accueillant Yichidut, il recevait les gens pendant des heures, toute la nuit. 3-4 nuits par semaine. Il y avait des nuits dans lesquelles il dormait 2-3 heures pour recevoir le monde. Les gens venaient depuis 10 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin. Il rentrait à la maison, il se préparait, il revenait pour la tila. Et des fois, il dormait comme ça la journée, comme ça, 2-3 heures. Des fois, il sautait des nuits comme ça. Mais après un moment, il y avait tellement de monde que c'est pas possible. Et les gens ont besoin de parler. Donc c'est là, à ce moment-là, que pareil, le rabbi avait dit aussi, on va devoir écrire dans les livres. Exactement le même processus qu'il y a ici. Alken, c'est pour ça. Rashamti, kol atchuvot, alkol ashelot. Dilad Mourazaken, c'est pour ça. J'ai inscrit dans ce livre toutes les réponses à toutes les questions. Je répète, toutes les réponses à toutes les questions.
Alors, j'ai brûlé un feu rouge.
Par les questions, on a besoin de ta chaîne.
Faut que tu trouves le.
Maintenant, je suis bien conscient que pour ceux qui ont déjà passé un premier passage dans Tania, c'est pas forcément qu'on a trouvé toutes les réponses à nos questions. Donc il va en parler tout de suite. Il dit dans ce livre, j'ai écrit toutes les réponses à toutes les questions.
On a un équivalent.
Quand tu dis, j'ai écrit toutes les réponses à toutes les questions. C'est une réponse première lecture ou alors il faut aller les chercher?
Alors voilà, après il faut les chercher. Et c'est pour ça qu'après on va. C'est pas fini, la lettre n'est pas finie. Donc il dit, j'ai écrit toutes les réponses à toutes les questions. Dit la de Mourazaken. Non, en se basant sur tous les textes de Rambam, tous les textes du Maharal de Prague, tous les textes de Luchot Abrit. C'est-à-dire qu'avec ça, il a une grande connaissance de savoir quelles sont les questions que les gens posent. Et donc, en se basant sur ça, il dit, j'ai écrit les réponses à toutes les questions, les Mishmeret, les Hot, pour qu'on garde ça en mémoire. D'accord? C'est-à-dire que dès qu'une personne a un problème, ils prennent ce livre-là. Liot, les Chol, Echad, Vechad, les Zikaron, les Ben Enav. Que chaque personne garde ce livre en tant que souvenir devant ses yeux. Ça veut dire que la réponse est là. Velo itrok od likanes le daber mi beyechidut. Et donc il demande au chassidim de ne plus avoir et de ne plus chercher à se serrer et à faire la queue pour venir lui parler. Il dit, avec ce livre-là, vous n'avez plus besoin de venir me parler. Concrètement, on raconte que les chassidim venaient, ont continué quand même à venir voir l'Admor Hazaken. Et l'Admor Hazaken, au début, il voulait pas, etc. Mais concrètement, après, bon, il pouvait plus recevoir comme avant. Mais il a quand même continué à recevoir. Et, par rapport à ce que je disais au rabbi tout à l'heure, le rabbi aussi, on a vu la même chose, qu'à un moment, il a dit, ça y est, ça suffit, il faut chercher les réponses dans les livres, il faut poser les questions au rabbanim, etc. Et on a vu que les chassidim n'ont pas accepté ce que le rabbi avait dit, parce qu'ils sont basés sur ce que les chassidim d'Admor Hazaken avaient fait. Mais bon, concrètement, techniquement, on peut pas répondre à toutes les questions. Le Tania, il devait avoir, dans les 45 ans, là. Il a pris 20 ans pour écrire le Tania. 20 ans, on a dit ce dernier. 20 ans. Il a eu plusieurs versions. Parce qu'aujourd'hui, on a retrouvé des manuscrits, il y a eu plusieurs versions du Tania. À chaque fois, quand on voit les différences, etc., on trouve des profondeurs énormes. Pourquoi il a rajouté ce mot? Pourquoi il a enlevé ce mot? Pourquoi il a enlevé cette phrase? Pourquoi il a rajouté cette phrase? Pourquoi il a enlevé ce chapitre? Pourquoi il a mis ce chapitre au milieu? Parce que c'est, on voit qu'il a travaillé pendant 20 ans sur ça. Kibahen, Insa, Margo, Alenafcho. Le plus important, c'est quoi? C'est que grâce au Tania, la personne arrivera à trouver Margo, Alenafcho, un repos pour son âme. Ça, c'est en vérité le but. Un repos pour son âme. C'est que notre âme a soif. Et elle a besoin de retrouver un repos. De sentir que, c'est comme quelqu'un qui a soif, qui boit, et qui au moins, pendant quelques moments, pendant quelques instants, il sent que je me sens bien. Ça m'a reposé, ça m'a apaisé. Ve'etza nechona, il trouvera dans ce livre-là un bon conseil, le chol davar akasha la bavodat Hashem, pour toute chose qui est difficile pour lui, bavodat Hashem dans le service de Dieu, ve'nachon yelibo batuar bashem, gomer ba'adenu. Et donc là, il souhaite, il donne le souhait, il dit que une personne comme nachon libo, ça veut dire que quand il sera confiant, et ben grâce à ça, be'ezrat Hashem, il réussira. Mais il y a une question à laquelle on n'a toujours pas répondu. C'est quoi? Bon, là, il dit qu'il n'a pas le choix. Bon, t'as pas le choix. Mais il y a un point qu'il n'a pas répondu, c'est que celui qui est dans l'obscurité, tu ne peux pas lui proposer un livre quand il est en galère. Bon, tu m'as répondu, c'est vrai que l'Admor Hazaken a répondu, il a dit que ce livre-là, avant de l'écrire, il s'est basé sur beaucoup de gens qui sont venus lui parler. Ça veut dire qu'il ne s'est pas basé sur une personne qui est venue lui parler, il ne s'est pas basé sur sa manière de voir les choses, il s'est basé sur les questions que les gens lui ont posées. Donc il s'est basé vraiment sur beaucoup de choses. Mais t'as toujours pas répondu à la première question. Que quand une personne vit dans l'obscurité et que tu lui dis, tiens, prends le Tania, ouvre chapitre 36, il dit, écoute, moi, ton livre, il est bien beau, mais moi, je suis dans l'obscurité, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et ça, on n'a pas répondu à cette question. Comment on fait? C'est pour ça que l'Admor Hazaken, maintenant, se tourne vers les Mashpi'im. Les Mashpi'im, c'est les conseillers, d'accord? Les conseillers, les rabbanim qui peuvent aider dans chaque ville. Il dit, ou Mishedatok Tsara, celui qui n'arrive pas à trouver sa réponse. La Vint Varetsa Mitor contre Simelou, celui qui n'arrive pas à trouver les réponses à ses questions. Qui n'arrive pas à trouver le repos pour son âme, qui n'arrive pas à trouver la tranquillité au travers de ce recueil, donc du Tania, Yefaresh Shichato, l'Ifnag de Lim Shebeiro. Alors on lui demande, Dans ce cas-là, qu'il aille en parler avec les grands de sa ville. Vehem yevonenu, et eux, ils vont l'aider à trouver la réponse à sa question au travers de ce recueil-là. Puisque la manière comment la Morazakan avait formé les chassidim, c'est que dans chaque ville, il y avait un responsable. Même plusieurs responsables. Il y avait en général un responsable par choul. Et donc, la Morazakan dit au chassidim, celui qui a un problème, qui n'hésite pas à aller voir le responsable. Et lui dire, voilà, j'ai pas compris, j'arrive pas à trouver la réponse à ma question dans le Tania. Maintenant, la Morazakan se tourne vers ces gens-là, ces responsables. Et il dit, des fois, on peut avoir des gens qui ont une fausse humilité. C'est quoi la fausse humilité? Quelqu'un qui vient te voir, qui te demande un conseil, tu dis non, je connais pas. Quoi, tu connais pas? Mais l'autre, il connaît encore moins que toi. Il faut l'aider. Alors, dis-le à Morazakan. Il s'adresse maintenant à ces gens-là qui peuvent aider. Et il leur dit, va aller à Mbakashati, et c'est vers eux que je me tourne, à ceux qui peuvent aider dans chaque ville, à ce responsable. Chez l'Olasum Yad la paix, de pas mettre leurs mains devant la bouche. Leitnaheg, ba'anava, veshiflush, shekachas veshalom, de se comporter dans une humilité et une bassesse qui est fausse, chas veshalom, vechanoda onesh amar almone abar. Comme la Gemara Sanhedrin dit, la punition qui est très grave sur celui qui veut empêcher le pain. C'est une expression talmudique. Celui qui a du pain et qui veut pas donner à manger à quelqu'un d'autre. Alors, matériellement, c'est quoi le pain? Il y a un pauvre qui a faim, je lui donne pas du pain. Spirituellement, c'est quoi le pain? C'est quelqu'un qui est pas bien. Et moi, des fois, j'ai du pain à lui donner. C'est-à-dire, je peux lui parler.
Je peux l'aider.
Avec le peu de connaissances que j'ai, je peux lui parler. Je dis non, il a qu'à avoir des gens plus grands, parce qu'il y a peut-être des gens plus grands dans la ville. Je dis non, il a qu'à avoir des gens plus grands. Mais c'est une fausse humilité. Parce que quand tu empêches quelqu'un de trouver la lumière, qu'est-ce que dit la Gemara? Moné Abar, celui qui empêche le pain à quelqu'un, dit la Gemara. Ikavoul, et oum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les nourrissons qui sont dans le ventre de leur mère sont en train de le maudire. L'humanité entière le maudit. C'est la Gemara qui dit ça. C'est-à-dire que la Gemara dit qu'on ne peut pas supporter quelqu'un qui peut aider, qui n'aide pas. Non assistance à personne en danger.
Qu'il est pas capable.
C'est quoi?
Si la personne n'est pas capable d'aider.
Est-ce que c'est une vraie humilité ou fausse humilité? Quelqu'un il vient te voir, il vient se confier à toi. Il dit, est-ce que je peux te parler? Il commence à te parler, tu lui dis, bon, écoute, désolé, il faut voir le rabbin. Mais attends, si il venait te parler, ça veut dire qu'il ne se sent pas en confiance avec une autre personne. Avec toi, il se sent en confiance. T'es sûr que tu peux pas l'aider? T'es sûr que t'as pas une phrase à lui dire? T'as rien à lui dire?
Au moins l'écouter déjà.
Déjà, il faut l'écouter et il faut lui parler. Il faut l'aider. C'est important de l'aider. Donc la Morazakan se tourne, on a dit, ne rentrez pas dans ce jeu-là d'avoir une chifloute chez le checker, d'avoir une fausse humilité. D'ailleurs, c'est une notion qu'on développera très longuement dans le Tania, dans le chapitre 31. Qu'est-ce que c'est la fausse humilité? Qu'est-ce que c'est la vraie humilité? Qu'est-ce que c'est la fausse humilité? Et donc il dit d'un autre côté, Vegodel Asachar, le grand salaire qui est promis par les Chachamim, Imam Arazal Al-Pasuk Meir et Neshneh Hashem. D'un autre côté, celui qui ne va pas mettre sa main devant la bouche, qui ne va pas garder son pain, et qui va le donner aux autres. Alors dit la Gemara, dans ce cas-là, quand tu éclaires les yeux de quelqu'un, et bien là, dans ce cas-là, non seulement que Dieu va aider, que l'autre va être éclairé, mais toi aussi tu seras éclairé. Meir et Neshneh Hashem, Dieu éclaire les yeux des deux. C'est-à-dire qu'en aidant quelqu'un, en éclairant quelqu'un d'autre, tu t'éclaires aussi à toi-même. Et une fois, l'Admorazakan, dans un autre texte, quand il a repris ça, il a dit que, il s'est basé sur un midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il nous dit que celui qui éclaire une autre personne, celui qui aide une autre personne, son cerveau et son cœur deviennent 1000 fois plus purs. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'étudie un texte, des fois j'ai du mal à le comprendre. Pourquoi j'ai du mal à le comprendre? Parce que mon cerveau n'est pas pur. Et donc des fois je dois repasser pour comprendre. Eh ben, dit la Gemara, enfin ça c'est le Midrash qui dit ça, que celui qui aide une autre personne, son cerveau et son cœur deviennent 1000 fois plus purs. Et une fois, dans une lettre, le rabbi a commenté sur ça. Hein, il a dit, les gens, quand ils entendent 1000 fois, ils disent, bon, 1000 fois, c'est une exagération, c'est une expression. Et ben, il dit non, c'est logouzma, c'est pas une expression, c'est pas une exagération. Et il dit, si c'était une exagération, c'est déjà une exagération dans le sens inverse. Ça veut dire qu'en vérité, c'est beaucoup plus que 1000 fois. Et le rabbi, dans cette lettre, il dit, j'ai vu de mes yeux des gens qu'en aidant des autres personnes, ils se sont aidés à eux-mêmes. Combien de fois, des fois, on voit que quand une personne vient te demander de l'aider dans l'étude, bah, quand tu vas l'aider, toi-même, ça va t'aider. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu aides quelqu'un d'autre, tu es le premier à être aidé. Et tu vas en gagner beaucoup plus que ce que l'autre va gagner. Donc là, la Morazakan s'adresse à ses mashpim, à ses responsables, et il leur dit, c'est très grave de vous taire, et d'un autre côté, si vous allez parler, regardez ce que vous avez à gagner. Donc c'est dommage de vous taire. Donc, Mechaï et Chaïm, enfin, il s'adresse maintenant à ces gens-là qui vont devoir aller voir ces rabbanim. Et qui a toujours une honte, parce que quand tu ouvres un livre, t'espères comprendre la réponse dans ce livre. Et quand à un moment tu comprends que tu trouves pas la réponse. Donc t'as une honte d'aller voir quelqu'un. On a toujours une honte de sentir qu'on a besoin de l'aide extérieure. Et donc on a un peu dégoûté. Alors le Gemara Zaken s'adresse maintenant à ces gens-là. Il leur dit « Mechaï Echaïm, Dieu qui a donné la vie à la vie, Yézakenu Vechaïenu, qui nous permet de nous donner le srout d'arriver les Yamim à des jours, Asher lo yelamdu od ishadrehu, comme c'est écrit dans le prophète Jérémie, que viendra le jour dans lequel on n'aura plus besoin qu'un enseigne à l'autre. » Qui roule à Miedouti, car tout le monde me connaîtra. En d'autres termes, il s'adresse à ces chassidim qui ont du mal et leur dit, écoutez, sachez que même si aujourd'hui vous avez du mal à comprendre, sachez que c'est que passager et que quand ma chère viendra, on n'aura besoin de personne. Et que chacun ouvrira un livre et pourra comprendre directement. Imaginez la chance que c'est. Quand ma chère arrivera, tu ouvres un livre, tu comprends.
Du premier temps.
T'as besoin de personne.
Il n'y a plus de cours alors.
Non, pas qu'il n'y a plus de cours. Tu ouvres un livre, tu comprends. Tu ouvres un livre une deuxième fois. Mais, bonne question.
Ah
oui. Tu ouvres un livre une deuxième fois, tu recomprends à la deuxième profondeur. T'as pas besoin qu'une autre personne t'enseigne. Alors, une fois, le rabbi a commenté sur ça, il a dit, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de cours quand ma chère viendra? Alors, il se base sur ça, il dit non. Il dit, en vérité, il y aura toujours besoin de cours. Parce que c'est pas pourquoi. La preuve, c'est que c'est écrit clairement dans la Gemara que quand ma chère viendra, c'est lui-même qui nous enseignera la Torah, que ma chère sera le roi Shishiva. Mais qu'est-ce qu'il nous enseignera si nous-mêmes on sait ce qui est écrit dans les textes? Alors, il répond comme ça, il dit, c'est très simple. Il dit, en vérité, la réponse se trouve dans le Rambam. Rambam, dans le texte qu'on va lire ici tout de suite, il dit que quand Mashiach viendra, c'est écrit qu'il mal a aret dea et hachem kamaim layam mechassim, que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les océans. Ça, c'est le verset. D'accord? Et Rambam reprend ça. Pourquoi on compare aux eaux qui recouvrent les océans? Ben, c'est très simple. Quand on voit l'eau qui recouvre l'océan, quand tu vas devant la mer, toi, tu crois que c'est plat. Tu crois que c'est plat et tu crois que partout c'est le même niveau. Mais quand tu plonges, qu'est-ce que tu vois? Bah, tu vois que, même si en haut tu croyais que tout était à la même hauteur, mais quand tu vois en bas, tu dis que voilà, lui il est à 10 mètres, l'autre il est à 15 mètres, l'autre il est à 50 mètres, l'autre il est à 10 km. Et pourtant, à la surface, tout est au même niveau. Donc, dit le rabbi que quand ma chère va venir, à la surface, on sera tous au même niveau. Mais en profondeur, il y en aura qui iront plus loin que d'autres, et c'est pour ça qu'on aura toujours besoin de l'aide extérieure. Mais au moins, à la surface, chacun pourra comprendre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens que même à la surface, ils n'arrivent pas. Donc, quand ma chère arrivera, au moins chacun, il ouvrira un livre, il comprendra quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il comprendra toute la profondeur? Pas forcément. Donc on aura besoin de l'aide de Mashiach, on aura besoin de l'aide de Rabbanim, etc. Imaginez Mashiach en personne qui va nous enseigner. Imaginez quand Mashiach arrivera. Tu lis la Gemara. T'as un problème avec ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit? Tu vas le voir. Rabbi, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas compris. Pas de problème, viens mon fils, je t'explique. J'ai dit mon fils parce que Rabbi Shimon disait toujours mon fils. Mais quand même, la chance qu'on aura quand ma chère viendra, c'est que tout le monde pourra quand même avoir au moins une connaissance de base sans avoir besoin d'aide extérieure. Donc, l'Admor HaZaken se tourne vers les chassidim et leur dit, vous inquiétez pas, le jour viendra dans lequel vous ouvrirez un livre, vous comprendrez. Kimal a aret, ki roula miedou oti, car tout le monde me connaîtra, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Kimal a aret, dea et hachem vegomer, car la terre sera emplie de la connaissance de Dieu. Amen, keni ratson, amen, qu'il en soit ainsi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc. Avant de passer à la troisième partie de la lettre, on finira avec cette troisième partie. Donc, conclusion de ce qu'on a expliqué ici. L'Admor HaZaken nous a expliqué ici que, normalement, il n'aurait pas dû écrire un livre. Il nous a expliqué pourquoi il n'a pas eu le choix d'écrire un livre. Et il y a même des histoires dans lesquelles on raconte que l'Admor HaZaken a dit à ses chassidim que s'il a pris tellement de temps pour écrire le Tanya, c'est parce qu'il a voulu repousser au maximum l'échéance. Il savait qu'à un moment, il faudra fermer les portes. Il faudra dire, écoutez, ça y est, maintenant, il faut chercher les réponses ailleurs. Mais il a repoussé au maximum l'échéance. Jusqu'à un moment, il est arrivé, il a dit, écoutez, ça y est, maintenant, le moment est arrivé. Il faut chercher les réponses dans les livres. D'accord? Donc là, l'Admor HaZaken nous dit qu'en vérité, dans ce livre, il y a les réponses à toutes les questions. Mais il est conscient, comme on verra dans le Tanya, c'est pas un livre qui est écrit en forme de questions-réponses. Pas du tout. C'est un livre qui est écrit en forme de construction. Ça veut dire quoi? Dans ce livre-là, le but de ce livre, c'est de savoir qui je suis. Pour comprendre qui je suis, on va devoir tout reprendre à la base. Tout. Savoir qu'est-ce que c'est l'âme divine, qu'est-ce que c'est l'âme animale, combien d'âmes on a à l'intérieur, quand arrive l'âme divine, quand arrive l'âme animale, qu'est-ce que veut l'âme divine, qu'est-ce que veut l'âme animale, à quel moment l'âme divine prend le contrôle, à quel moment l'âme animale prend le contrôle, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi des fois je veux ça, des fois je veux ça. D'accord? Comment expliquer que des fois je suis nerveux et des fois je suis calme? Toutes ces choses-là, comment expliquer toute cette complexité qu'il y a chez la personne? On va devoir tout reprendre à la base. Tout. Et une fois qu'on aura bien compris ce qui se passe à l'intérieur, après, à la fin, on pourra arriver enfin à la réponse, à la question à la réponse, qui je suis. Une fois que tu comprends qui tu es, tu peux comprendre où tu vas aller. Avant de comprendre où tu dois aller, il faut d'abord comprendre qui tu es. Une fois que tu comprends ce que tu as dans ton moteur, là, tu peux savoir jusqu'à où je peux aller. Donc, c'est pour ça que ce livre s'appelle Sefer Shel Benonim. Ça, j'y reviendrai plus tard. On verra dans le cours de la semaine prochaine que le Sefer Shel Benonim, parce que l'Admor HaZaken va expliquer que, en vérité, la notion de tzadik, rachat et benoni, Il y a le tzadik, le rachat, donc ça on sait, et le benoni, c'est celui qui est le moyen. Nous, quand on entend le mot moyen, on dit bon, moyen, on n'aime pas les gens moyens, nous on aime les gens qui sont au top. Et bien, l'Admor HaZaken va expliquer qu'en vérité, selon le Zohar, la notion de moyen, c'est complètement différent que ce que nous on pense. Donc, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est un tzadik, qu'est-ce que c'est un rachat, qu'est-ce que c'est quelqu'un de moyen, qu'est-ce qu'une mitzvah, qu'est-ce qu'une avéra. Pourquoi quand je fais une mitzvah, je fais du bien à Dieu, et pourquoi quand je fais une avéra, je fais du mal à Dieu? Est-ce que Dieu, je peux lui faire du mal? À qui je fais du mal quand je fais une avéra? Qui ça dérange? Toutes ces questions que je vous pose là, c'est les questions qu'on aura les réponses. Mais ce sera une construction. Et forcément, comme c'est une construction, alors des fois, hein, on peut perdre un peu le fil. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem dans ce deuxième cycle du Tanya. C'est qu'on va essayer de faire, je vais imprimer Bezrat Hashem, un chemin du Tanya. Et Bezrat Hashem, tous les quelques cours, on va essayer de reprendre cette feuille-là et de montrer où on en est dans le chemin. Comme ça, au moins, progressivement, quand on avancera, on saura où on en est. Parce que des fois, il y a tellement de détails qu'on peut se perdre dans les détails et oublier où on en est. Mais toutes les questions qu'on a posées, je m'engage, hein, parce que on l'a étudié, et ceux qui ont fait toutes les questions que je viens de poser ici, et encore plusieurs milliers d'autres questions, vraiment, on trouvera toutes ces réponses aux questions Bezrat Hashem dans le Tanya. Maintenant, Dilat Morazaken, enfin, Veiné. Donc ça, c'est la première partie de cette lettre. Rappelez-vous qu'à la base, le Tanya, c'était, on a dit, c'était des recueils, des manuscrits qui n'étaient pas imprimés. C'était des manuscrits qui étaient donc retranscrits. Chacun retranscrivait de manière un peu, comment on peut dire ça, de manière un peu pas approximative, mais bon, c'était pas imprimé, donc du coup, il y a eu des erreurs. Comme on a dit la semaine dernière, j'ai dit rapidement, il y a eu des erreurs volontaires et involontaires. Les erreurs involontaires, bah, c'est involontaire, ça veut dire que ça a mal été recopié. Et donc du coup, imagine-toi, tu prends un texte, tu te casses les pieds pour comprendre ce qu'il veut dire, et à la fin, tu vas voir un autre, tu dis, ah ouais, mais c'était une erreur. Tu sais comment t'es dégoûté? Tu dis, mais attends, je me suis cassé les pieds pour comprendre alors que c'était une erreur d'impression. T'es dégoûté. Donc c'est du temps perdu pour rien. En plus, il y a eu malheureusement des gens, comme on était en pleine opposition du racisme, il y a eu des gens qui étaient de mauvaises intentions, qui n'étaient pas des talmides chamim, des gens qui étaient pas bien, qui ont fait exprès de faire des manuscrits avec plein d'erreurs. Comme ça, ils ont dit, ceux qui vont étudier le Tanya, ils vont croire que c'est un livre qui veut rien dire, et donc du coup, ils vont le jeter. Donc c'est pour ça que les chassidim sont venus voir l'Admor HaZaken, ils ont dit, il faut imprimer. Il faut un texte imprimé, un texte clair, d'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu vas imprimer, ça coûtait très très cher à l'époque d'imprimer. Donc il y a eu des gens, il y a eu des chassidim qui ont dit, il n'y a pas de problème. On prend sur nous d'imprimer. Il y a eu trois chassidim qui avaient des contacts avec des imprimeurs, qui ont pris sur eux, donc de s'occuper, ça a pris plusieurs années, pour mettre en place, etc. À l'époque, c'était des lettres en fer qu'il fallait poser, etc. C'était un travail énorme. Et donc, ils ont pris sur eux. Et donc là, l'Admor HaZaken, maintenant, va faire un peu ce qu'on aurait dit aujourd'hui, un texte de copyright, dans lequel il va remercier ces gens-là pour le travail qu'ils ont fait, le travail de collègues de toutes les versions et le travail qu'ils ont fait. Et il va exprimer une sorte de copyright pour demander de ne pas copier le travail qu'ils ont fait pour un certain nombre d'années qu'il va citer. Donc, dans les mots, on finit avec ça. Veiné. Achar shenit peshtu akutrasim aniskarim l'el. Dernier paragraphe en bas de la page, deux lignes avant la fin. Veiné. Achar shenit peshtu akutrasim aniskarim l'el. Une fois que les recueils qu'on vient de citer, donc c'est le Tanya, une fois que ces recueils-là se sont répandus, Baruch Hashem parmi les chassidim, Bekerev kol anshesh lemon aniskarim l'el parmi les chassidim, Beatakod rabot par plusieurs, donc ça a été recopié plusieurs fois, Mides sofrim shonim ou meshonim, par des scribes différents et bizarres. Donc en disant bizarre, vous avez compris de quoi il parle. Iné, aviedé, ribouya, takot, shonot. Il y a eu tellement de recopiages. Rabouk, morabou, ataouyot, sofrim, mod, meod. Donc du coup, au résultat, il y a beaucoup, beaucoup de fautes d'impression. Enfin, pas d'impression, mais de fautes de recopiage. Velazot, c'est pour ça, nadvar, ucham, shalanashim, efratim. Donc l'esprit de certains, de gens importants. Un ekouvim, un iskarim, l'el me verladab. Donc, on a le nom des gens, hein. Les noms des gens, ils ont été cités avant dans les approbations. Litroa, begoufa, moumaoudam. Donc, c'est des gens-là qui se sont fatigués de leur corps et de leur argent. Léavi, un coup de tracim, anal, betatfous, pour amener ces livres-là à l'imprimeur. Mais nous, qui, mikol sig, et s'assurer que ces livres-là soient nettoyés, mikol sig, de toute erreur. Vetaouyot, sofrim, moumougoy, metev. Donc, qu'ils soient bien corrigés plusieurs fois, etc. Va, mina, le pa, la tava, yishachala, et dilad, morazaken. Devant une belle action comme ça, je dis Yisher Chela, ça veut dire Yisher Kohar, ça veut dire bravo. Parce que Chela, c'est en araméen, ça veut dire Yisher Kohar, ça veut dire que ta force soit embellie, ça veut dire bravo. Maintenant, Feliot qui mikrama le dibera katouv, étant donné qu'il y a un verset qui dit clairement Ahur masik vulre eou, maudit soit celui qui rentre dans le domaine de l'autre. Ça veut dire celui qui touche au domaine de l'autre, donc c'est le copyright. Ve'arur, boklala bonidouille, dit la Gemara Shvuot, que quand on dit il est maudit, ça veut dire qu'il y a une malédiction et il y a aussi une mise en quarantaine. Chas ve'shalom roulé. Aken, c'est pour ça. Ki Yehuda ve'od likra. Ka'atina le mishde gouda rabba. Donc, la Gemara le dit déjà, est-ce qu'on a besoin de rajouter quelque chose d'autre? Mais quand même, on vient le rajouter. Ka'atina, je viens ici, les mishde gouda rabba. Donc, de mettre une grande interdiction à kol amadfissim sur tous les imprimeurs. Chez l'eau, parce qu'une fois que c'est déjà imprimé, c'est facile de prendre le texte et de réimprimer. Donc, c'est pas aussi facile qu'aujourd'hui, mais quand même, c'est plus facile, une fois que t'as un texte imprimé, de venir et de le réimprimer. Chez l'eau, les adfis contresim anal, de ne pas réimprimer ces manuscrits-là. Donc, ces manuscrits imprimés. L'eau les d'atzman, ve l'eau les de giradil on, ni par eux-mêmes, et ni par leur flèche, c'est-à-dire ni par leurs représentants. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui utilisaient comme technique, qui disaient, on va avoir des imprimeurs goyim qui travaillent pour nous. Il dit, bon, c'est eux qui ont fait, nous on l'achète, nous on le rachète. Donc, il dit, voilà, il dit, je veux rien savoir. Ni par eux, ni par leurs flèches, c'est-à-dire ni par les gens qui travaillent pour eux. Bilti Réchid en Ekouimanal, sans permission de ces trois personnes qui ont travaillé sur ce livre-là. Mesher Chamesh Shani Miyot Kalot Atfus, pour une durée de 5 ans. 5 ans. 5 ans, c'est la durée que l'Admor HaZaken a estimée pour avoir le retour sur investissement. Alors, je sais pas combien de temps c'est le copyright aujourd'hui, copyright de la langue française, mais là, en tout cas, le copyright pour l'Admor HaZaken, il a estimé pour 5 ans. Le temps que le retour sur investissement de ces gens-là revienne et qu'ils récupèrent et qu'ils gagnent de l'argent sur le travail qu'ils ont mis. 50 ans? Là, c'était 5 ans. Mais n'oubliez pas aussi que ce qu'on a raconté la semaine dernière. Là, j'ai plus le texte sur moi, mais pour ceux qui étaient la semaine dernière, vous rappelez qu'on a expliqué le nombre de milliers, de dizaines de milliers d'éditions qu'on a eu du Tania, et qu'en quelques années, déjà quelques mois plus tard, les 20 000 premiers livres qui ont été imprimés étaient déjà terminés. Donc il a fallu réimprimer. C'est un livre qui est parti, on aurait dit aujourd'hui, comme des petits pains. Comme des beignets, pour être actuel.
Tu l'as dit à un moment
où on était encore clair. Donc je termine avec ça. Vela shomim yunam, donc ceux qui écouteront, tout ira bien pour eux, et que la bénédiction du bien vienne sur eux. Ko divrei amelaket l'ekuta marimanal, ainsi sont les paroles de celui qui a fait ce recueil de paroles. Alors, vous remarquez qu'il n'a pas signé son nom, puisque de son vivant, l'Admor HaZaken n'a pas publié le Tania de son nom. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Pour des raisons, je ne sais pas si on les comprend, mais en tout cas, il ne voulait pas. C'est seulement une fois qu'il est parti de ce monde que ses enfants ont réimprimé le même livre, et là, son nom est apparu. C'est pour ça qu'il termine, il dit « Ainsi sont les paroles de celui qui a recueilli ce texte-là, sans dire son nom. » Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Bezrat Hashem. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est toutes les réponses à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, Bezrat Hashem, on suivra un plan. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions pour avoir toutes les réponses. Bezrat Hashem, on commence la semaine prochaine. Premier chapitre, Tania, Perek Aleph, Tania, qu'on a dans la page suivante. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.
Chazak.
Merci.
Toutes les réponses.
Je parle des questions existentielles.
Ça existe dans le loto.
C'est pas une question existentielle, le loto. Les questions existentielles, c'est la question que tu te poses sur ta personne. Toutes les questions que tu te poses sur ta personne, tu trouveras la réponse. Toutes. Sans exception. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis mauvais? Qu'est-ce que c'est le bon? Qu'est-ce que c'est le mal? D'accord? C'est quoi le bon? C'est quoi le mal? Des fois, la limite est très fine. Qu'est-ce que tu appelles quelque chose de bien?
Bien, c'est quand tu fais une bonne chose, tu es quelqu'un,
C'est quoi quelque chose de bien? C'est quoi quelque chose de bien? Qu'est-ce qui définit quelque chose de bien? Quand la halakha te donne pas la définition, comment tu définis?
C'est quelque chose de bien.
Oui. Pourquoi? C'est quoi le bien?
Tout ce qui peut faire plaisir à celui qui est en face de moi.
Et si je l'ai fait, si j'ai rendu service à l'autre pour me faire plaisir, parce que j'ai kiffé le merci qu'elle
me donnait. Si je me fais plaisir.
Alors, c'est bon ou c'est du bien ou du mal?
Du bien. Si je me fais du bien, je fais du bien à l'autre.
Ou si je le fais pour l'écraser? Toutes ces questions qu'on va poser, tout ça. La différence, la nuance entre le bien et le mal est très très fine.
Oui, mais où commence et où finit le bien est écrasé.
Vous allez voir que c'est très très fin. Mais on va trouver la réponse aux questions. On s'arrête là.
Arvid.
Allez.